Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Centre Sèvres. Je suis Bruno Saintot, jésuite, responsable du département éthique biomédicale au Centre Sèvres. Et je suis très heureux de vous accueillir dans cette vénérable institution universitaire qui est consacrée à l'enseignement de la philosophie, des sciences humaines, de la théologie. Et nous souhaitons, pour notre part, contribuer à réfléchir sur d'anciennes et de nouvelles questions que posent les sciences, la médecine, la société, la vie politique, les danses et la place des religions. Parmi ces questions anciennes et nouvelles, il en est une particulièrement importante qui nous concerne tous, celle du vieillissement et le terme peut-être du vieillissement, la mort. Dans la pièce de théâtre d'Albert Camus, intitulée Caligula et publiée en 1944, l'empereur Caligula, figure de la folie du pouvoir despotique, avoue avoir découvert, après la mort de son amante Drusilla, je cite, « une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. » Son ancienne maîtresse Césonia lui rétorque alors, je cite, « Mais il y a le bon, le mauvais, ce qui est grand, ce qui est bas, le juste et l'injuste. Je te jure, tout cela ne changera pas. » Alors Caligula lui répond dans une sorte d'exaltation qui annonce sa prochaine folie meurtrière, « Ma volonté est de le changer. Je ferai à ce siècle le don de l'égalité. » Et lorsque tout sera aplani, l'impossible enfin sur terre, la lune dans mes mains, alors peut-être, moi-même, je serai transformé et le monde avec moi, et alors enfin les hommes ne mourront pas et ils seront heureux. Plutôt que de traiter de cette utopie de ne pas mourir et d'être enfin heureux, une utopie que viennent réactiver les projets les plus radicaux du transhumanisme prophétisant la mort de la mort, nous avons préféré nous interroger sur une question plus immédiate, plus à notre portée finalement, et une question pressante, le vieillissement et ses défis individuels et collectifs. En effet, ce n'est sans doute pas l'utopie de ne pas mourir qui nous apparaît la plus immédiatement souhaitable, mais comme le dit le titre du numéro hors série de la revue La Recherche, publiée au mois de décembre, plutôt l'ambition, l'utopie ou l'ambition, vivre longtemps en bonne santé. Je ne sais pas si l'idéal de la bonne santé est de pouvoir circuler en trottinette électrique, comme nous l'indique la photo de couverture, mais j'irai regarder à la sortie s'il y a beaucoup de trottinettes, donc si beaucoup d'entre vous sont venus en trottinette électrique ou pas. L'allongement de la vie est une réalité attestée. Comme nous le montre cette diapo, l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter et le désir de vivre longtemps, en bonne santé et de façon épanouie, nous semble de plus en plus réalisable. L'allongement de la vie apparaît d'abord comme une source de possibilités et puis aussi une source de difficultés et on a fait coexister dans le tract ces deux photos-là en contraste, vous voyez, voilà. Mais d'abord une source de possibilités nouvelles. Pour les personnes qui ont une santé relativement bonne, on pourrait dire une possibilité de mieux vivre en famille, d'avoir des relations plus fréquentes, plus larges, plus approfondies avec les enfants, les petits-enfants, de pouvoir voyager, de pouvoir se cultiver, développer des hobbies, développer des engagements intellectuels, sociaux, politiques. Voilà, ce seraient des possibilités nouvelles. Mais aussi l'allongement de la vie apparaît comme une source de difficultés nouvelles. On peut dire qu'elles sont à la fois psychologiques, angoisse de la solitude, de la dépendance, perte d'autonomie, forme de dépression. Elles sont aussi sociales, isolement, solitude. Elles sont médicales, maladies chroniques, toute une série de maladies neurodégénératives ou dégénératives en général, troubles de la mémoire, etc. Elles sont aussi financières, économiques. Elles sont aussi politiques, solidarité, lien social et la santé publique. Le vieillissement est devenu une question globale de société que les pouvoirs publics ont, au cours de l'histoire récente, eu de la peine à prendre en compte. En effet, en 1998, le rapport du Comité consultatif national d'éthique avertissait déjà. Je cite, « Par ailleurs, bien qu'elles aient été prévisibles, les conséquences de la longévité semblent n'avoir pas été jusqu'ici prises en compte pour ce qu'elles sont. L'un des problèmes majeurs de notre société pour les prochaines décennies. » En 1998, un des problèmes majeurs. En 2014, le rapport de l'Observatoire national sur la fin de vie lui faisait écho, on pourrait dire, sur un ton plus alarmant, puisqu'il titrait « La société est face au vieillissement, deux points, le risque d'un naufrage social ». C'est un titre un peu catastrophiste. En 2018, un nouveau rapport du CCNE invitait à une conversion du regard social à une inventivité sociale pour ne pas nous résigner justement au risque du naufrage social et pour mieux vivre ensemble le vieillissement. Je cite, « Le regard que la société porte sur la personne âgée en perte d'autonomie, ou plus généralement, ça nous concerne, plus généralement la vieillesse, s'assimile trop à un naufrage et dès lors aboutit à une marginalisation de la personne, à sa dévalorisation ou encore à son isolement. Nous pouvons et nous devons penser autrement le vieillissement et les conditions faites aux personnes âgées qui ont pour la plupart consacré leurs forces et leurs qualités pour notre collectivité durant leur vie active. Leur disponibilité et leur retour d'expérience sont à prendre en considération de façon plus systématique et respectueuse. » Fin de citation. Peut-être pourrions-nous nous fixer comme slogan, bon, encore mieux, comme objectif de ce colloque, cette citation du CCNE, « Nous pouvons et nous devons penser autrement le vieillissement et les conditions faites aux personnes âgées. » Je voudrais remercier vivement l'équipe de préparation du colloque, Nathalie Chabert-Buffet, Pierre Corvol, Jean-Noël Fissinger, Jean Pic, Alain Tenaillon, aussi les membres du département, Richard Metan, Patrick Verspiren, d'avoir contribué aussi à penser et à vivre autrement le vieillissement en organisant ce colloque. Nous avons dégagé quatre approches d'une question complexe sans prétendre ainsi l'épuiser. Comment honorer, on pourrait dire, cet objectif que nous nous sommes fixés, nous pouvons, nous devons penser autrement le vieillissement et les conditions faites aux personnes âgées. Nous avons tenté de l'honorer par quatre approches différentes, une approche médicale, professeur Françoise Forêt, une approche socio-économique avec le professeur Henri Le Ridon, une approche médico-philosophique avec le professeur Gilles Berru et une approche politique, nous sommes très heureuses, avec madame la sénatrice Corinne Imbert. Et donc je voudrais déjà remercier vivement les intervenants qui nous aideront à honorer ce programme. Merci professeur Françoise Forêt, Henri Le Ridon, professeur Gilles Berru, je ne sais pas s'il est arrivé. Il est là, ben voilà, ah merci, voilà. Et madame la sénatrice Corinne Imbert. Merci d'être avec nous à un moment où il n'est pas facile de circuler. Peut-être que vous avez dû traverser des zones un peu compliquées. Et merci de nous faire bénéficier de vos expériences et de vos réflexions. Peut-être que nous allons mieux découvrir grâce à vous que bien vieillir, c'est peut-être aussi chercher à transmettre ce que l'on découvre ou ce que l'on a découvert pendant une vie parfois déjà très riche, ce que l'on découvre et ce que l'on aime. Alors merci beaucoup à vous de vous y exercer parmi nous et pour nous aujourd'hui. Merci et bon colloque. Voilà. Je passe la parole à professeur Pierre Corvol, professeur émérite au Collège de France, qui va nous présenter les deux intervenants suivants. Merci. Alors je branche votre.
Bien, merci beaucoup. Merci Bruno. Effectivement, j'ai le plaisir de modérer cette première session qui est consacrée à deux des approches liminaires à la réflexion globale que nous allons mener. D'une part, les enjeux du vieillissement, donc une approche volontairement médicale menée par Françoise Forêt. Pour qui ne connaît pas Françoise Forêt, c'est quelqu'un qui, en fait, je crois, depuis le début de sa carrière, quand elle était jeune et maintenant toujours jeune, elle continue à travailler sur le vieillissement. Et à un moment où je pense qu'au tout début de ta carrière, il n'y avait pas tellement, je dirais, d'engouement pour cette discipline qui est la gériatrie, qui n'était pas considérée comme la discipline reine. Il faut quand même le réaliser. Il y a des gens qui sont pionniers dans notre domaine. Françoise Forette en fait partie. Et donc, elle a très logiquement été responsable de beaucoup d'actions dans le domaine du vieillissement, d'abord des actions médicales quand elle était à l'hôpital Broca, et puis elle est aussi directrice à l'heure actuelle d'un institut de la longévité et du vieillissement, et elle est ancienne directrice de la Fondation nationale de gérontologie. Donc Françoise va nous faire un tableau, je dirais, positif et optimiste, vous allez voir, j'en suis certain. Alors, je n'ai pas regardé si c'est positif, mais je n'ai pas de doute là-dessus, sur le vieillissement. Chaque orateur dispose de 45 minutes, mais ce que nous souhaiterions, c'est que, un, le temps des 45 minutes soit strictement respecté, je m'y emploierai, et que, deux, il puisse y avoir 5, 10, voire 15 minutes de discussion à l'issue de la présentation formelle. Françoise, à toi.
Merci Pierre Bruno, merci Pierre de m'avoir invité à ce colloque. Je vais peut-être te décevoir en exposé un petit peu moins médical que d'habitude. D'habitude, je parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer, mais ce n'est pas du tout le sujet que je vais évoquer aujourd'hui. Alors, le vieillissement, quelle est la définition du vieillissement? Très rapidement, au cours du vieillissement, il existe une diminution de fonction à l'échelon moléculaire, cellulaire, organique, etc. et une augmentation de l'incidence des maladies liées à l'âge. Alors, c'est une définition qui est un peu pessimiste. Mais ce qui est très très important de savoir, c'est que c'est un processus extraordinairement hétérogène. Cette hétérogénéité, elle est due d'une part à une hétérogénéité génétique, que je ne vais pas développer, et surtout à des facteurs d'environnement. Et ce sont ces facteurs d'environnement auxquels je vais m'intéresser aujourd'hui, car c'est la base de la prévention. C'est-à-dire le niveau socio-économique, on voit bien les différences nord-sud en termes de longévité, et les progrès de la médecine en matière de prévention et d'accès aux soins. Alors les enjeux de la prévention, puisqu'on va beaucoup parler de prévention à tout âge, c'est bien évidemment de se dire que l'accroissement de la longévité, c'est d'abord un immense privilège pour nous, hein, privilège des nations développées, mais ceci à la condition, bien évidemment, que la population âgée soit active et en bonne santé. Et j'insiste sur les deux termes, active et en bonne santé. C'est dire à quel point la prévention doit jouer un rôle majeur. Alors je vais faire peu de diapos, puisque ce sont sur la démographie, puisque notre ami Henri Léridon va nous en parler. Mais cette diapo qui montre l'évolution des années 50 aux années 2050, montre bien, vous voyez en jaune là les personnes de plus de 80 ans, et en noir les personnes de plus de 65 ans, on voit bien qu'on a au cours du temps une augmentation considérable de cette portion âgée de la population, et en particulier des plus de 80 ans, et ce sont en termes de pathologie les personnes qui peuvent éventuellement avoir des problèmes. Alors en 2017, l'espérance moyenne de vie a continué à réaugmenter après une petite baisse, mais ce qui est intéressant, c'est l'espérance moyenne de vie à 60 ans, et vous voyez qu'une femme à 60 ans, là je vais citer surtout les femmes, c'est les plus intéressantes, parce que c'est nous qui vivons le plus longtemps, et vous voyez qu'à 60 ans, on a presque 30 ans de vie devant nous, hein, 27,5. Et Jean-Marie Robin nous avait donné un certain nombre de diapos intéressantes qui montrent qu'à 70 ans, nous les femmes, on a presque 20 ans d'espérance moyenne de vie. À 80 ans, on a encore 10 ans. 80 ans. À 90 ans, on peut compter sur 5 ans, etc., etc. Et même à 100 ans, on a une espérance de vie non négligeable, et même à 110 ans. C'est dire à quel point il faut s'intéresser à la prévention, parce que nous avons quand même des chances ou des risques de vivre très longtemps. Dans l'ensemble, et ça c'est ce qu'il faut retenir, la population de plus de 60 ans est en bonne santé. Regardez simplement le petit point en jaune. Vous voyez sur cette diapo qui est un petit peu ancienne que seuls 6,63% de la population est atteinte de perte d'autonomie, ce qu'on appelle la dépendance. Dépendance liée, je le souligne, toujours à l'émergence des maladies invalidantes. C'est jamais lié à l'âge, hein, la dépendance. En réalité, quand on voit les statistiques actuelles, c'est plutôt 8% de la population hein, qui est atteinte de dépendance. Mais 8%, ça veut dire que la 92% de la population est autonome. Alors bien évidemment, quand on voit, comme on voit sur cette diapo, ça augmente avec l'âge. Mais prenez la population dans son ensemble à plus de 60 ans, et bien vous avez simplement 8% de la population. Alors 8%, ça fait quand même 1 267 000 personnes. Ce sont les personnes qui sont bénéficiaires de l'APA en 2017. Et vous voyez en dessous les chiffres de 2011 et les chiffres de 2009 qui montrent qu'il n'y a pas une explosion, hein, au contraire de la dépendance, dans la mesure où il y a déjà beaucoup plus de personnes de plus de 60 ans et de plus de 80 ans. Le couple, 60% des personnes dites dépendantes vivent à domicile et 40% en établissement. Le coût pour la collectivité de la dépendance stricto sensu, c'est de 5,6 milliards d'euros et non de 21 ou 30 milliards, on voit des chiffres qui sont très très variables, tels que c'est souvent annoncé. Parce que dans ces 21 milliards ou ces 30 milliards, on compte les frais d'assurance maladie. Il n'y a aucune raison de compter ça dans la dépendance. Les personnes âgées ont toujours cotisé à l'assurance maladie. Il n'y a aucune raison que l'on compte ça dans la dépendance. Si on fait le coût des personnes âgées, d'accord, mais pas le coût des personnes âgées dépendantes. C'est pas la dépendance qui compte. On compte aussi dans ces 30 milliards ou ces 21 milliards. Je vous dis, les chiffres sont très très variables suivant les instituts. On compte aussi, par exemple, l'allocation de logement. Non, les 5,6 milliards d'euros, ce sont les milliards, si je puis dire, qui sont dévolus à la prise en charge stricto sensu de la dépendance et surtout l'aide que peut apporter à ces personnes, c'est-à-dire essentiellement l'APA. Ce qu'il faut dire, c'est que la prise en charge de la perte d'autonomie en France n'est pas convenable. Hein, ça a été dit depuis 1998, vous l'avez dit, Père Bruno. On sait qu'il s'agit d'un drame humain absolument considérable et une catastrophe financière, hein, pour les personnes atteintes et leurs familles. On sait que la qualité des soins, que ce soit à domicile, que ce soit en institution, est insuffisante, faute de personnel formé en nombre suffisant. Il n'y a aucune évaluation des coûts de terrain du coût de la perte d'autonomie à domicile. Hein, il y a quelques statistiques, mais c'est l'inverse qu'on fait. On regarde ce qu'on donne aux personnes et on dit ben, « ça, c'est le coût ». Mais ce n'est pas le coût réel que payent les personnes et surtout les familles quand on doit avoir une personne à domicile. Et comme vous le savez, la majorité des familles et la majorité des personnes souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible, même dépendantes. Et le reste à charge est trop lourd pour la majorité des familles. Les coûts d'hébergement, et j'ai mis hébergement en italique, pourquoi ? Parce que dans ces coûts dits d'hébergement entrent bien évidemment des coûts de soins qui ne devraient pas y figurer. Les coûts d'hébergement varient de 1 600 à plus de 5 000 euros par mois, et on voit des maisons de retraite qui sont encore plus chères, alors que la moyenne des retraites en France est de 1 365 euros. Il y a donc là un paradoxe, qui est un paradoxe à la limite du scandale. Alors c'est dire qu'améliorer la prise en charge de la perte d'autonomie, c'est un enjeu majeur. Tous les gouvernements, il faut bien le dire, ont apporté leur pierre. Hein. Tous les gouvernements ont apporté des améliorations, mais ils se sont heurtés au manque de financement. Ce qu'il faut, et c'est mon dada à l'heure actuelle, c'est pour ça que j'en parle à la place de la maladie d'Alzheimer, il faut de l'argent neuf, les caisses de l'État sont vides et les familles sont déjà écrasées par les coûts induits par la perte d'autonomie. Parce qu'il faudrait augmenter les coûts, en maison de retraite en particulier, pour avoir une prise en charge plus cohérente, il faudrait augmenter les coûts. Les familles ne peuvent pas payer davantage. Et notre idée, on a travaillé ça dans l'institut dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ILC, c'est une assurance autonomie publique obligatoire, qui pourrait être une solution, et nous en avons parlé au sein du conseil, du haut conseil à la famille, l'âge et l'enfance. Alors pourquoi une assurance ? Parce que l'environnement démographique s'y prête extraordinairement, dans la mesure où si on fait cotiser tout le monde, et dans le système que nous soutenons, il faudrait que tout le monde cotise, il y aurait 100% de cotisants, mais les 8% de personnes dépendantes ne représentent que 2,6% de bénéficiaires. Quand vous considérez l'assurance maladie pour lequel vos cotisations sont très élevées, je ne sais pas si vous les regardez, la majorité des gens ne les regardent pas, mais on paye beaucoup pour l'assurance maladie, et c'est normal, on en a besoin et tout le monde en bénéficie à un moment donné ou à un autre. C'est la même chose pour la retraite. Tout le monde cotise pour la retraite, on paye des cotisations très chères et c'est normal parce qu'on souhaite avoir une retraite confortable et 100% des gens prennent leur retraite. Sauf les personnes qui sont décédées avant, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, nous sommes dans une éventualité différente. Vous avez 100% de cotisants et 2%, 2,6% de bénéficiaires. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des cotisations extrêmement minimes. Il faut que ce soit obligatoire. Pourquoi ? Parce que on désire faire cotiser tout le monde, retraités, non retraités, salariés, non salariés, retraités, dès le premier salaire. Et que quand on a 25 ans et qu'on a la chance d'avoir un boulot, on ne pense pas à la dépendance. Donc il faut que ce soit obligatoire exactement comme pour la sécurité sociale de façon générale. Il faut que ce soit une assurance publique pour éviter la sélection. Car le système assurantiel fait qu'il y a un tri des bénéficiaires. On le sait. Il faut donc que les cotisations soient faibles. Et nous avons travaillé avec deux jeunes actuaires qui ont calculé qu'à 1 euro par jour, qui semble que ce soit acceptable par la population, c'est-à-dire 30 euros par mois, le système est un système qui est cohérent jusqu'aux années 60. 1 euro par jour, ça veut dire quand même 30 euros par mois. 30 euros par mois, ça peut être élevé pour certaines bourses, et c'est pour ça que nous souhaitons que ce soit basé sur les revenus. En moyenne, c'est 1 euro par jour. Les très faibles revenus paieraient beaucoup moins. Les revenus beaucoup plus élevés paieraient un peu plus. Mais même si c'est 60 euros, pour des forts revenus, ça n'est pas une cotisation importante. Pour nous, elle doit être associée à l'APA qui a une valeur pédagogique, puisque quand on demande l'APA, il y a un plan de soins. Et il faut que ce soit, mais par contre, il faut que ce soit libératoire, justement, pour que se libérer un petit peu du plan de soins, qui quelquefois est un carcan pour les familles qui ont besoin d'autre chose. Et enfin, il faut que ce soit indexé sur les salaires. Alors, le calcul de nos actuaires, c'est Stéphane Marie et Benjamin Chanès, deux jeunes très brillants actuaires qui se sont beaucoup intéressés à ça. Cette assurance, telle que définie, apporterait 16 milliards d'euros par an à la collectivité. Elle apporterait 1275 euros mensuels pour les plus dépendants, c'est-à-dire les GIR 1 et 2, pour ceux qui connaissent le GIR, et 925 euros pour une dépendance modérée, mais à ajouter à l'APA. Et tel quel, le système est viable jusque dans les années 60, et ce système sortirait les familles du cauchemar financier de la dépendance. Donc je livre ça à vos réflexions. En réalité, vous voyez que à l'heure actuelle, on fait face à trois catégories de population quand on vieillit. Vous avez les personnes dépendantes, donc environ 8%. Vous avez deuxièmement les personnes âgées fragiles, et je vais définir après ce qu'est la fragilité, c'est environ 15%. C'est beaucoup plus si on ajoute les pré-fragiles, et en plus ça dépend des séries, des études. Et le reste, c'est-à-dire la grande majorité, ce sont les personnes en bonne santé, ce qui ne veut pas dire indemne de maladies chroniques. Hein ? On peut avoir des maladies chroniques et se considérer en bonne santé. Alors, l'enjeu de la prévention, c'est bien entendu d'augmenter la troisième catégorie. Quelles sont les cibles de la prévention ? Les cibles de la prévention, c'est premièrement les maladies liées à l'âge. C'est deuxièmement la fragilité. Et troisièmement, l'inactivité. Et j'insisterai sur l'inactivité. Vous savez tout à fait comme moi que la plupart des maladies sources de dépendance, les maladies dites liées à l'âge, dont j'ai fait la liste ici, ont des facteurs de risque modifiables. Et dans la mesure où ces facteurs de risque sont modifiables, ils sont accessibles à la prévention. Maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux, même les démences et même la maladie d'Alzheimer dans un certain nombre de cas, l'ostéoporose, les troubles sensoriels, etc., etc. Les troubles nutritionnels, bien sûr. La prévention pourrait les éviter dans un grand nombre de cas, mais il faut savoir que c'est jamais du 100%, hein, la prévention. Mais dans un grand nombre de cas, la prévention peut les éviter. Et elle sera certainement magnifiée par les progrès très importants qui sont en cours. Je donne un exemple de ces facteurs de risque. Le facteur de risque principal des accidents vasculaires cérébraux, comme vous le savez, c'est l'hypertension artérielle. Eh bien, il y a une étude, l'étude Ivette, qui a bien démontré que même après 80 ans, le traitement de l'hypertension artérielle permet de réduire de 30% les accidents vasculaires cérébraux, de 39% la mortalité par AVC, de 21% la mortalité totale et de 64% bien sûr les insuffisances cardiaques congestives. C'est dire à quel point la prévention doit être instituée tôt, mais elle n'est jamais inutile, même très tard. C'est jamais trop tôt, jamais trop tard. L'ennui, c'est que la prévention, ce n'est pas une petite pilule qu'on pourrait prendre, et à ce moment-là, on serait très bien. La prévention, elle passe d'abord par le style de vie. Et ça, c'est difficile à faire, sinon comprendre, mais c'est difficile d'y adhérer, parce que ça change notre mode de vie. C'est-à-dire l'éducation tout au long de la vie, on va voir à quel point l'éducation est un facteur important dans le domaine, la culture sanitaire et la conscience préventive, la nutrition, l'activité physique modérée et prolongée. Nous avons un nombre considérable d'études maintenant sur l'activité physique qui montrent que ça réduit les altérations cognitives, que ça améliore l'autonomie. L'activité intellectuelle, l'activité professionnelle, j'y reviendrai, et enfin un engagement personnel et la responsabilité vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est le style de vie qui permet finalement d'éviter un grand nombre de maladies. Alors la prévention, c'est l'affaire de toute une vie, mais le problème, là encore, c'est que l'adhésion au principe de prévention dépend du niveau d'éducation. Et pour nous, le seul moyen d'éviter les inégalités de santé qui en découlent, c'est de proposer des programmes de prévention dans l'entreprise, sur le temps de travail. Car promouvoir la santé, c'est indispensable pour promouvoir l'activité, on va y venir. La prévention doit corriger les inégalités. Espérance moyenne de vie à 35 ans, c'est une diapo aussi un petit peu ancienne. Vous voyez qu'il y a 7 ans de différence d'espérance moyenne de vie à 35 ans chez les hommes entre un cadre, profession libérale et un ouvrier. 7 ans. Vous vous rendez compte de ce cadeau de vie qui est fait à une certaine catégorie de la population et pas à d'autres? Alors les femmes, c'est la même chose, mais beaucoup moins. Nous, on est sensibles à moins de choses. On est moins sensibles que ces chefs-d'œuvre fragiles que sont les hommes sexe masculin. Autre diapo sur la mortalité cette fois-ci, qui montre à quel point l'éducation est importante. Voyez là un index de mortalité. Et vous voyez sur les petites colonnes le niveau d'études des personnes. Ben vous voyez que la mortalité la plus basse, égale à 1 là, par convention, ben ce sont les personnes qui font des études supérieures. Et au fur et à mesure que vous diminuez le temps d'études, vous augmentez la mortalité. Et vous voyez que quand on n'a pas de diplôme du tout, quand on n'a pas fait d'études, on a une mortalité 2,5 fois supérieure à celle de la personne qui a fait des études supérieures. Donc là encore, c'est un facteur important à connaître et ça montre à quel point nous devons être vigilants sur l'éducation tout au long de la vie. Compte tenu de tout cela, quels sont les acteurs de la prévention? Ben, c'est d'abord l'école. Et c'est vrai que je ne pense pas que ce soit très bien fait encore à l'heure actuelle, encore que. Moi, je vois avec mes petits-enfants, ils apprennent quand même un certain nombre de choses. Mais c'est le milieu professionnel. Les institutions aussi de retraite et de prévoyance, on voit qu'elles ont des programmes très très importants hein, dans la prévention. La gériatrie, bien sûr, les gérontopôles qui doivent faire avancer la recherche dans le domaine. Et vous voyez que je mets le médecin généraliste en dernier, non pas qu'il ne soit pas important, mais je trouve qu'on charge trop sa barque chaque fois qu'il y a n'importe quel problème, le sida, le vieillissement, les addictions, etc. Pan, le médecin généraliste, on en a de moins en moins, il ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'il faut suppléer. Alors, pour réduire les inégalités du niveau d'éducation, à notre avis, la prévention doit être mise en œuvre dans les entreprises. Et nous avons fait une étude que nous avons appelée « Entreprises en bonne santé », qui était un projet qui visait à démontrer aux employeurs et aux pouvoirs publics qu'un programme de prévention de la santé effectué en entreprise, sur le temps de travail, payé par l'entreprise, pouvait accroître justement la culture sanitaire, ce qui était important, c'est-à-dire le niveau d'éducation sanitaire, et changer les comportements, améliorer ainsi le bien-être et changer l'image de l'entreprise. Les résultats ont été positifs dans toutes les entreprises étudiées sur les connaissances, sur les comportements et l'image de l'entreprise. C'est une étude que nous avons publiée et qui est totalement en accord avec les études étrangères. Toutes ces études ont montré le bénéfice d'un programme de prévention offert sur le site pendant le temps de travail. Et on a pu remarquer que l'adhésion à ces programmes entreprises est plus importante que pour les programmes proposés simplement par les agences. Alors, l'impact des programmes de prévention sur la réduction des arrêts de travail, qui peut être un témoin aussi. C'est plus difficile à mettre en œuvre. Nous, on s'y est pas du tout attaqué. Mais une étude canadienne a démontré que ça pouvait engendrer une réduction de 3 jours d'arrêt de travail et un retour sur investissement. Et ça, c'est ça qu'il faut dire aux entreprises. Parce que ce qui les intéresse, c'est le retour sur investissement. Et bien, dans cette étude canadienne, il y a un retour sur investissement de $15 canadiens par dollar investi. Donc ça, c'est une des pistes. Toutes les maladies ne se préviennent pas si facilement, et c'est vrai que la maladie d'Alzheimer, je vais en dire juste 2 mots, pose un redoutable problème. Il doit y avoir à peu près 900 000 personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, je dis à peu près, parce que il n'y a pas de registre de la maladie d'Alzheimer. 225 000 nouveaux cas par an, 25% après 85 ans, 50% non diagnostiqués encore à l'actuel. Alors, il y avait 17% de traités par des médicaments symptomatiques, hein, c'est-à-dire qui améliorent les symptômes, mais qui n'interviennent pas sur le cours de la maladie. Je pense qu'il y en aura beaucoup moins, puisque maintenant, ces médicaments, qui pourtant aidaient considérablement certains patients, ne sont plus remboursés. Alors, la maladie d'Alzheimer, comme vous le savez, et les maladies apparentées, hein, pas seulement la maladie d'Alzheimer, tout le spectre des maladies neurodégénératives, dont parlait le père Bruno, ou neurovasculaires d'ailleurs, elles sont responsables, ces maladies, de 70% des institutionnalisations, c'est-à-dire des entrées en EHPAD, et de 72% des demandes d'APR. Alors, il y a des outils de prévention, mais bien évidemment, ils doivent être confirmés. Alors, juste un mot sur les progrès. Il y a eu récemment des progrès considérables sur les marqueurs neuroradiologiques et biologiques qui sont une avancée majeure car ça permettra dans les années qui viennent de faire le diagnostic extrêmement tôt. Parce qu'effectivement, les perspectives de ce qu'on appelle les disease modifying treatments, c'est-à-dire les médicaments qui agissent véritablement sur la maladie, rendent indispensable le diagnostic non seulement précoce, mais bien avant la démence et bien avant l'apparition des premiers symptômes. C'est là que ces médicaments pourront être utiles. Et ces médicaments sont à l'heure actuelle dans le domaine de la recherche. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de déceptions. Ce sont des médicaments qui s'adressent aux 2 protéines qui sont en cause dans la maladie d'Alzheimer. On s'est beaucoup intéressé d'abord à la protéine amyloïde. Maintenant, on se tourne plutôt vers la 2e protéine, qui est la protéine tau. Pour l'instant, nous en sommes au stade des essais et aucune de ces molécules n'est prête véritablement à être mise sur le marché. Alors, une bonne nouvelle quand même sur la maladie d'Alzheimer, c'est que la prévalence semble diminuer. Et ça, dans tous les pays. Il y a moins de maladies d'Alzheimer, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors, pourquoi cette prévalence de la maladie d'Alzheimer diminue? Probablement grâce à une meilleure maîtrise des facteurs de risque cardiovasculaire, parce que les facteurs de risque cardiovasculaire, et en particulier l'hypertension artérielle, qui joue un rôle majeur, comme vous le savez, par exemple, dans l'accident vasculaire cérébral, les accidents vasculaires cérébraux, jouent aussi un rôle important dans la survenue de la maladie d'Alzheimer, au même titre que beaucoup d'autres facteurs. Deuxièmement, c'est probablement lié au niveau d'éducation, parce que là encore, il y a un rapport de 1 à 10 entre les personnes qui n'avaient pas d'éducation du tout et les personnes qui avaient un niveau universitaire. Et peut-être aussi parce qu'à l'heure actuelle, il y a une stimulation cognitive plus importante et plus prolongée qui est apportée, ne serait-ce que par la télévision, on en dit beaucoup de mal, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de stimulations qui sont à la portée des personnes. Ce sont les hypothèses. Deuxième cible de la prévention, la fragilité. La fragilité, c'est un nouveau concept. C'est un concept qui a été publié par Linda Fried, qui est une femme absolument remarquable, américaine. Et la fragilité, c'est un état de vulnérabilité à un stress, secondaire à de multiples déficiences des systèmes physiologiques, c'est-à-dire les systèmes immunitaires, les systèmes hormonaux, etc., qui diminuent avec l'âge, ça on le sait. Pourquoi est-il important de le reconnaître? Les critères de Fried sont une fatigue, une diminution de la masse musculaire, une perte de poids, une diminution de la vitesse de marche, une diminution de l'activité physique, c'est-à-dire une sédentarité. Et pourquoi c'est important? C'est parce que la fragilité est un facteur de risque majeur d'entrée dans la dépendance, d'hospitalisation et de décès. Alors la question, c'est est-ce qu'elle est réversible et est-ce qu'on peut faire un dépistage systématique? On a deux types de critères, là, comme vous voyez sur cette diapositive, mais ce sont des critères qui ne peuvent être étudiés que dans un milieu hospitalier. C'est pour ça que là encore, à ILC, nous sommes en train de faire un projet de recherche avec la CNAR, avec un questionnaire en trois questions qui permettrait une auto-évaluation de la fragilité. Mais je n'ai pas le temps de vous en parler pour l'instant. Quelle est la prévalence de ce syndrome de fragilité? Ça dépend des études. Selon l'étude de Fried, c'est à peu près 10%, 15% de la population. Mais vous voyez là, en rouge, que ça augmente bien évidemment avec l'âge. Entre 65 ans et plus de 85 ans, la prévalence augmente. On associe souvent à la fragilité ce qu'on appelle la pré-fragilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les critères qui rassemblent alors là un nombre beaucoup plus considérable de personnes. Alors, est-ce que cette fragilité est réversible? Oui, la fragilité est réversible. C'est-à-dire à quel point c'est important, là encore, d'en faire le diagnostic et de la prévenir. On peut traiter ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la diminution de la masse et de la fonction musculaire. Il faut faire de la kiné, il faut faire de l'activité physique, il faut faire de la marche. On peut traiter l'ostéoporose, l'ostéopénie, on a des médicaments pour ça. On peut traiter la dénutrition, on peut traiter les troubles de l'équilibre. Et en plus, une recherche très importante à l'heure actuelle s'adresse aux modifications physiologiques. Troisième et dernière cible de la prévention, l'inactivité. Alors là, c'est une diapo que j'aime beaucoup, qui montre ce qui se passe en France et qui ne se passe dans aucun autre pays. Vous voyez en rouge l'augmentation de l'espérance moyenne de vie. Et vous voyez en jaune la diminution des taux d'activité professionnelle. Cette divergence des courbes, il n'y a qu'en France qu'on l'observe. Or, on sait très très bien que l'inactivité impacte la santé et la longévité. Vous voyez sur la partie gauche de la diapositive exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'augmentation de la mortalité en fonction de la profession. Mais ce que vous voyez en haut, surtout, c'est la mortalité des inactifs non retraités. Alors on peut dire c'est peut-être parce qu'ils sont malades, mais même quand cette donnée est prise en compte, vous voyez que la mortalité des personnes inactives est 3 fois supérieure à la mortalité de l'ensemble de la population. Or, tous les types d'activités, l'activité mentale, l'activité de loisir, l'activité physique, l'activité professionnelle, réduisent la mortalité, augmentent l'espérance moyenne de vie de façon générale et améliorent les fonctions cognitives. Et nous sommes particulièrement mal placés. Vous voyez là une comparaison des taux d'emploi de 55 à 64 ans, ça c'est les diapos de 2012, en Suède, au Japon et en France. 73% des Suédois sont au travail, 65,4% des Japonais, 44% des Français. Alors ça s'améliore, maintenant c'est 49%, presque 50%, mais on est quand même au-dessous de la moyenne européenne. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas? D'abord parce qu'il y a eu un abaissement de l'âge de la retraite en 82 qui fait que les personnes se sont habituées finalement à ne pas travailler, à se dire que c'était mieux, d'ailleurs c'est ce qu'on leur a fait croire, que c'était mieux de s'arrêter tôt. Mais ce n'est pas la seule cause parce qu'il y a une discrimination majeure vis-à-vis des personnes plus âgées. Et vous voyez là sur cette diapositive les causes de discrimination. Quand un candidat de référence, vous voyez, bien blanc, bien propre, 40 ans, reçoit à 100% de chance d'avoir un travail lorsqu'il en fait demande sur un poste qui est disponible, ça se réduit à 71% quand l'apparence physique est, disons, désastreuse. Ça se réduit à 63% quand on est une femme. C'est pas bon d'être une femme si on veut travailler. À 54% seulement quand on est handicapé. À 36% selon son origine, hein, son origine ethnique. Mais le pire, bah, c'est d'être vieux. On a 3 fois moins de chances au-delà de 50 ans de pouvoir travailler que la personne beaucoup plus jeune. Donc c'est un facteur de discrimination considérable. Alors, est-ce que la prolongation de la vie professionnelle est bénéfique à la santé, en particulier à la santé cognitive? Nous avons fait une étude dans ce domaine dont le but était de déterminer si l'âge de la retraite était lié au risque de démence. Pour ce faire, nous avons croisé les données de 400 000 travailleurs indépendants, retraités. Les résultats, pour aller vite, la prévalence de la démence dans cette population de retraités, c'était de 2,5%. Et nous avons pu démontrer que retarder d'un an l'âge de la retraite est associé à une diminution de 3,1% du risque de démence. Et que, par exemple, si l'âge de la retraite passe de 60 à 65 ans, ce qui n'est pas exorbitant, on peut espérer une réduction de 15% du risque de démence, qui est considérable en matière de prévention de la démence, étant donné qu'on n'a pas, comme je vous le disais tout à l'heure, encore de médicaments pour le faire. Alors, ces résultats sont en accord avec d'autres études. Je ne vais pas y revenir parce que je pense qu'on doit arriver à la fin de... Hein ? Je voudrais quand même vous montrer ça. Ça, c'est de l'étude Cher. L'étude Cher, c'est une étude européenne fantastique qui a réuni un certain nombre de pays d'Europe et on étudie tous les déterminants des personnes à la retraite. Et là, ce que vous voyez là, c'est l'évaluation des fonctions cognitives. Quand on est actif, c'est la de référence, et on voit la diminution de ses fonctions cognitives 1 an après la retraite, 9 ans après la retraite, 14 ans après la retraite. Et vous voyez que à 14 ans après la retraite, on a 2,32 moins de fonctions cognitives que quand on a débuté. Alors on peut y pallier. Vous voyez en bas, vous voyez les non-professional activities. Que si vous êtes volontaire, ça améliore. Si vous aidez vos amis, etc., vous améliorez vos fonctions cognitives. Si vous faites un cours de langue en particulier, apprenez une langue étrangère, ça c'est épatant. Hein, ça donne 3 fois plus de fonctions cognitives. Un sport, un club de sport, etc., etc. Par contre, et ça on le savait, si vous aidez c'est vous qui avez en charge quelqu'un de votre famille qui est totalement handicapé, là c'est pas bon pour les fonctions cognitives parce qu'on sait très bien que la santé des aidants très très souvent est altérée. Vous avez sur la droite, je ne vais pas y revenir, l'activité physique, c'est exactement la même chose. L'activité physique a un effet bénéfique sur les fonctions cognitives. Tu disais que j'étais optimiste, j'aime beaucoup cette étude. C'est une cohorte, la Zofton Study, très, très intéressante cohorte sur les personnes âgées, qui a été suivie pendant 15 ans chez des hommes de 64 à 84 ans. Et ils les ont triés, séparés, avec un questionnaire en optimiste, cas intermédiaire et pessimiste. Et ils ont pu démontrer que quand vous êtes optimiste, vous avez une réduction de 40% de vos maladies cardiovasculaires. C'est quand même important. Et j'en ai une autre qui est pas mal non plus. C'est le risque relatif d'accident vasculaire cérébral et de coronaropathie en fonction de la joie de vivre. Ils appellent ça joie de vivre chez les hommes, mais en fait c'est l'optimisme, hein, c'est exactement la même chose. Eh bien vous voyez, ils ont trié la population entre joie de vivre élevée, intermédiaire et joie de vivre basse. Et vous voyez qu'il y a une augmentation significative, hautement significative pour certains, de la mortalité, des accidents vasculaires cérébraux, des coronaropathies chez les personnes qui n'ont pas de joie de vivre du tout par rapport aux personnes qui ont une joie de vivre importante. Donc en conclusion, la prévention à tous les âges répond aux défis de la longévité. Il faut améliorer la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il faut développer la recherche sur la longévité, développer massivement la prévention des maladies liées au vieillissement. Réduire le pourcentage des personnes en perte d'autonomie, promouvoir massivement le maintien dans l'emploi des plus de 50 ans si on veut conserver cette population en bon état cognitif, changer les mentalités non seulement des employeurs, des employés, mais de tout le monde, et changer aussi les conditions de travail, et cesser de croire que la longévité est un poids alors que c'est une fantastique opportunité pour tous, et particulièrement pour la croissance économique et pour l'emploi. Alors, dans quel état d'esprit aborder la vieillesse? Ben, on peut être optimiste et volontariste avec François Mauriac, que j'aime beaucoup, qui disait « Ce n'est pas parce qu'on a un pied dans la tombe qu'il faut se laisser marcher sur l'autre. » Elle peut être nostalgique avec Chateaubriand. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est la meilleure définition du vieillissement. Et Chateaubriand disait « Je vois les reflets d'une aurore dont je ne verrai pas se lever le soleil. » Elle peut être philosophique avec Alain Cordier, qui était directeur général de l'assistance publique, et qui disait « Il nous faut considérer le vieillissement comme une aventure du vivant qui implique d'abandonner l'étape sécurisante du présent et d'accepter que le futur soit une ouverture à l'infini. » Je vous remercie de votre attention.
Très bien, merci beaucoup Françoise. J'étais sûr qu'on terminerait par une note d'optimisme, et c'est pas mauvais dans les jours que nous vivons de tension d'avoir justement une autre vue. Donc on va tout de suite ouvrir le débat, on a 10 minutes de questions.
Comment évalue-t-on 450 000 maladies d'Alzheimer non diagnostiquées?
Non, on n'évalue pas 450 000 maladies d'Alzheimer non diagnostiquées. On s'est servi uniquement des statistiques du RSI, puisqu'à l'époque, il y avait encore le RSI. Et on voit là l'intérêt du RSI, c'est pour ça qu'on l'a choisi, alors que ça fait une population un petit peu particulière, hein, puisque ce sont les travailleurs indépendants. C'est que le RSI gère à la fois la retraite et la maladie. Donc on peut croiser l'âge de la retraite et la survenue de la maladie d'Alzheimer qui est marquée dans l'assurance maladie. Donc c'est comme ça qu'on a fait, c'est l'INSERM qui l'a fait avec nous. Et ce sont bien évidemment pour les maladies diagnostiquées. Et vous avez raison de dire qu'il y a probablement un certain nombre de maladies d'Alzheimer qui ne l'étaient pas. Là, on part du principe qu'elles sont diagnostiquées. C'est donc en croisant ces données. On n'a pas vu les personnes, hein, nous. On a traité simplement sur les dossiers du RSI. Je pourrais vous en dire plus si vous voulez. On a toutes les tubes.
Précisez ce qu'est le RSI, s'il vous plaît.
Le RSI, c'est la caisse de retraite et de maladie des indépendants. C'est la population générale est à la CNAV et à l'assurance maladie. Hein, assurance retraite, ce sont deux organismes différents. Donc c'est très très difficile d'aller les voir et de leur dire bah, « Écoutez, non seulement j'aimerais vos données, mais je voudrais les croiser. » Tandis que le RSI gérait les deux. Et quand je dis que gérait les deux, c'est parce que le RSI a été fondu maintenant dans le régime général.
Donc vous maintenez le chiffre de 900 000 maladies d'Alzheimer, non, dont la moitié n'ont non diagnostiquées.
Je ne maintiens pas ce chiffre parce que c'est ce qui est évoqué. On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais c'est probablement à peu près le nombre de maladies d'Alzheimer en France.
Vous levez la main. Vous levez la main.
Bonjour. Je voudrais savoir ce qu'est la joie de vivre.
Je crois que
et comment on l'acquiert peut-être.
Je crois que c'est une définition très individuelle. Je crois que c'est une définition très 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 individuelle, mais je pense que toi tu vas nous en parler. Alors, pour l'optimisme de façon générale, il y a des questionnaires, hein, qui valent ce qu'ils valent. Mais ces questionnaires permettent de partager une population entre personnes qui sont optimistes et personnes qui sont pessimistes. Vous savez, dans les questionnaires, il est marqué « Je vois totalement la vie en noir, je n'ai plus aucune perspective, etc. etc. » Vous avez une liste de 20 questions. Mais grossièrement, ça marche, même si ça paraît un peu grossier.
Oui, je sais que vous avez un tempérament optimiste, mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous appelez exactement une personne âgée en bonne santé? Parce que vous dites que ça peut être quelqu'un qui a des maladies chroniques, donc quelle est la définition de la bonne santé? Et sinon, une petite chose qui m'attriste, c'est dans les personnes ou les organismes qui sont censés aider à la prévention, vous n'avez pas mentionné les élus et les mairies, parce qu'il se trouve qu'il y a certaines mairies qui proposent de façon régulière des ateliers, des séances, quelquefois un peu très très fléchées, on va dire, mais vraiment, j'ai eu l'occasion d'assister à l'une de ces réunions, il y avait un monde fou.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. J'ai mentionné les organismes de retraite, mais c'est vrai que les mairies, les élus font aussi œuvre de prévention, et une œuvre très importante. Et c'est vrai que chaque fois qu'on nous demande aux uns et aux autres d'intervenir comme ça dans une mairie, il y a un nombre considérable de personnes qui viennent. Vous avez tout à fait raison. La première question, c'était quoi? Ah ben, la bonne santé, vous savez, c'est la définition de l'OMS, c'était un état de bien-être général en dépit d'un certain nombre de maladies.
Et au passage, ce bien-être implique un bien-être social.
Oui.
Pour répondre à votre question.
Oui.
Et d'ailleurs, on discutera de cela lors de la quatrième intervention, ce qui vous incite à rester, bien entendu.
Pardon, je voudrais intervenir. Pour revenir un petit peu sur le vieillissement, vous avez un peu été vite au début.
Ben oui, parce que je...
Pour bien rappeler un petit peu que le vieillissement intervient effectivement sur chacun des organes, mais de façon éventuellement très modérée selon les éléments.
Bien sûr.
Et ceci m'importe, parce que je me suis beaucoup occupé des prélèvements d'organes, et de bien rappeler qu'on peut prélever des organes très tard, ce qui traduit que les organes ne vieillissent pas systématiquement longtemps. Voilà. Donc il y a un mot sur le...
Mais j'ai bien souligné que c'était un processus hétérogène. Hein. Mais je me suis pas... j'ai pas insisté là-dessus parce qu'on peut pas tout dire. Vous voyez, déjà, j'ai dépassé mon temps. Et je voulais absolument placer l'assurance autonomie.
C'est un programme
c'est
politique.
Que c'est une bonne idée.
Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'émergence du numérique chez les personnes âgées et l'influence bénéfique?
Oui, tout à fait. Il y a une fracture numérique qui existe, mais dans la partie la plus âgée de la population. Sinon, maintenant, les personnes de plus de 60 ans, plus de 70 ans, sont totalement des personnes qui sont connectées. Et je cite souvent l'exemple du papa de ces dames-là, ces deux dames qui sont là, de Marianne, qui est une de mes collègues d'ILC. Son papa, vous étiez 8 enfants, et votre père, si je me souviens bien, toutes les deux étaient déjà connectés à Informatique il y a très très longtemps, il y a 22 ans, et ça lui permettait, il a des enfants qui sont répartis à peu près partout dans le monde entier, ça lui permettait d'être connecté avec tous ses enfants et ses petits-enfants. Si je me souviens bien, il leur faisait une lettre de la famille et une lettre politique, chaque mois, pour les tenir au courant. Ce qui fait que les uns savaient que l'autre avait eu un enfant, que le deuxième, etc., etc. Et ça, c'était déjà il y a 22 ans. Et ça n'est pas le seul. Alors, cela dit, la partie la plus âgée de la population n'est pas encore connectée, et ça peut poser problème, ça pose des problèmes sociaux. Et dans la mesure où la santé va devenir très connectée, il faudra quand même voir comment on peut pallier à ça.
Merci. Je crois qu'il nous faut remercier encore une fois Françoise de sa participation. Et pour enchaîner tout de suite, de façon à se garder du temps, comme on vient de le faire pour une discussion, je propose que Henri Léridon nous parle d'analyse démographique et économique, au pluriel du vieillissement. C'est donc l'approche socio-économique que nous allons aborder. Henri Léridon est un directeur de recherche émérite de l'Institut national des études démographiques, l'INED. Il est correspondant de l'Académie des sciences et il a été professeur au Collège de France sur une chaire annuelle et nous avons beaucoup appris avec lui. Et donc je suis sûr que nous allons continuer à apprendre. Merci Henri d'être avec nous.
Eh bien, merci à vous. Je vais me mettre debout, ça va mettre un peu d'animation.
Et d'exercice pour toi.
D'exercice pour moi, oui. Et donc, j'espère que je vais augmenter mes capacités un petit peu, là, pendant le topo que je vais faire. Et vous-même, si vous écoutez, ça vous sera sûrement bénéfique aussi. Alors, je vais vous parler du vieillissement, mais dans un autre sens, finalement, que celui qu'on a entendu jusqu'ici. J'ai le vieillissement de la population, bon, qui se définit de façon extrêmement simple par l'augmentation de la proportion de personnes âgées. Après, on peut discuter sur ce que c'est qu'une personne âgée. L'intérêt de vérifier, alors, je vous expliquerai pourquoi, il y a trois causes, trois sources du vieillissement dans une population. Et l'intérêt, c'est de voir à l'avenir comment les choses peuvent évoluer dans ce contexte-là. Je reviendrai sur une notion dont a parlé un peu Françoise Forêt, qui est l'espérance de vie en bonne santé, pour savoir si elle augmente aussi vite que l'espérance de vie normale, complète. Quelque chose sur les limites de la durée de vie, ce qu'on peut vivre 120 ans, 130, 140, 150, il y a un grand débat parmi les démographes. Et puis un peu de conséquences économiques aussi, c'est un très vaste sujet, je ne pourrais pas l'aborder très en détail. Alors d'abord, le vieillissement de la population, j'ai dit la définition est très simple, c'est la proportion des personnes qui dépassent un certain âge. Si je vous dis d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation de cette proportion des personnes qui vieillissent, personnes âgées parlant dans la population, qu'est-ce que vous me répondrez? La baisse de la mortalité? Hein? Grosso modo. Bon, moi j'ai aussi cru ça longtemps, mais c'est pas vrai. Et c'est le premier facteur historiquement, et qui continue à jouer un rôle, c'est la baisse de la fécondité. Je vais vous le montrer. Alors ensuite, bien sûr, la hausse de l'espérance de vie arrive, mais seulement quand elle affecte la mortalité aux âges élevés, justement ceux du vieillissement, au-delà de 60 ans. Or, historiquement, l'espérance de vie a beaucoup diminué, essentiellement par une réduction de la mortalité infantile et chez les jeunes. Et ça, ça n'affecte pas la pyramide des âges. Par contre, aujourd'hui, enfin depuis quelques décennies, étant donné qu'il n'y a plus grand-chose à gagner sur les premières années de la vie, les gains se concentrent sur les âges les plus élevés, et donc après 60 ans. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que la vie d'une population n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des accidents, donc il y a le poids de toute l'histoire passée et des irrégularités. Les effets de la guerre de 14-18, maintenant sont terminés en France, mais ils ont pesé pendant un certain nombre d'années. Et puis il y a le baby boom, par exemple aussi, qui a entraîné une variation des effectifs des générations successives. Et quand elles arrivent aux âges élevés, ça fait augmenter le nombre des personnes âgées, mais à d'autres périodes, au contraire, ça va les faire diminuer. Alors, pour vous illustrer ça, pour que vous me croyez un petit peu plus que sur parole, je vais vous montrer des projections. Il s'agit d'une projection où on part de la population de la France en 1740, donc ancien régime, et on l'avait fait ici jusqu'à l'an 2000. Donc voilà la pyramide des âges, je pense que vous... cette famille avec cette représentation-là, en 1740, on comprend pourquoi on a dit que c'est une pyramide. Ben, aujourd'hui, qu'on appelle pyramide des âges, quelque chose qui ne ressemble plus beaucoup à une pyramide. Mais à l'époque, et c'était un profil tout à fait classique pour toutes les populations anciennes, il y avait 26 millions de Français. L'espérance de vie était... Pardon, là, je me suis trompé. Voilà. L'espérance de vie était de 24 ans. C'est à peu près ce qu'on avait dans les populations traditionnellement anciennes, et ça pouvait être ça encore dans les populations même européennes au début du 19e siècle, et ça pouvait l'être dans les populations du tiers-monde il y a quelques décennies, c'est plus vrai aujourd'hui. Il y avait une fécondité de 5 enfants par femme à peu près, et la proportion des personnes âgées c'était 5%. Voilà, avec cette pyramide-là. Donc on fait l'hypothèse maintenant que, alors j'ai commencé par quoi, que la mortalité évolue à peu près comme elle a évolué. Et vous avez là le résultat de la projection donc en l'an 2000, avec une espérance de vie qui a atteint là ici 79 ans, ce qui n'est pas très éloigné de la réalité. Eh bien, vous voyez que la pyramide telle qu'elle est observée en 2000, et vous avez en surimposition celle qu'elle était au départ, c'est pas une différence gigantesque. Surtout dans la partie élevée, on peut même plus les distinguer. Donc, bien qu'on ait drastiquement fait évoluer la mortalité, puisqu'on est passé de 25 ans d'espérance de vie à presque 80, la pyramide a pratiquement pas changé d'allure. Alors, deuxième évolution, on suppose que la fécondité diminue à peu près comme elle a diminué, arrivant à 1,9 enfants par femme, c'est à peu près la situation aujourd'hui. Et on laisse, par contre, l'espérance de vie à ses 24 ans. Donc là, on a une, je n'ose même plus dire une pyramide, on a une structure par âge qui ne ressemble pas beaucoup à la structure initiale, alors qu'on n'a pas touché à la mortalité. Petit détail quand même en passant, dans cette hypothèse-là, c'est-à-dire que l'espérance de vie reste à 24 ans, mais la fécondité chute drastiquement, il n'y a plus que Bon, pardon, pardon, pardon. Il n'y a plus que... Non, c'est pas celle-là. Aïe, aïe, aïe. C'est embêtant, ces engins qui sont trop intelligents. Voilà, on en était là. Donc, c'est 400 000 la population de la France à ce moment-là. Évidemment, on a fait des coupes sévères avec une mortalité qui restait constamment élevée et avec une fécondité qui, elle, a diminué. Donc, il n'y aurait plus que 400 000 Français. Alors, si vous voulez être plus optimiste, dans l'hypothèse où j'avais fait évoluer seulement l'espérance de vie en maintenant une forte fécondité, eh bien, il y aurait 3,3 milliards de Français. Bon, voilà. On peut en penser ce qu'on voudra. 3,3 milliards sur notre territoire, hein, bien sûr. Voilà. Et alors, si on fait les deux à la fois, donc on arrive à l'espérance de vie de 80 ans à peu près, et une fécondité d'à peu près 2 enfants. Bon, on a une pyramide, vous voyez, régulière. C'est pas la pyramide de la France aujourd'hui, parce que j'ai pas pris en compte les effets des guerres, etc. Mais on voit que c'est une pyramide classique. Bon, donc, premier constat, pour les conclusions sur le passé, tant que la fécondité et la mortalité restaient au niveau historique traditionnel, eh bien, la structure par âge, une population était assez constante et on avait 5% de 65 ans et plus. C'est ce qu'il y a dans, ce qu'on a observé dans tous les pays, et y compris dans les pays du tiers-monde, il n'y a pas si longtemps, et même encore dans certains aujourd'hui. Le fond incompressible, c'est 5% de 65 ans et plus. Donc la baisse de la fécondité qu'on a observée en France, par exemple, eh bien, a fait que on est passé de 5 et quelques pourcents de personnes âgées en 1800 à 8% en 1900 et 11% en 1950. Donc on voit que ça a commencé à décoller au début du 19e siècle dans le cas de la France. Et depuis 1950, c'est surtout la baisse de la mortalité au-delà de 60 ans qui va pousser le vieillissement et le faire passer de 11% de personnes âgées à 16% en l'an 2000. Alors, qu'est-ce qui peut se passer à l'avenir? À l'avenir encore. Maintenant, nous avons devant nous encore une période de vieillissement inéluctable, parce qu'il y a au moins deux des causes qui sont impossibles à modifier, on ne peut pas intervenir dessus. Le fait qu'il y a eu une baisse séculaire de la fécondité pendant très longtemps, et puis qu'il y a eu des perturbations introduites par le baby boom, comme je l'ai évoqué. Donc ça va peser sur la proportion des personnes âgées au fil des ans, encore un certain temps. Alors si maintenant la mortalité et la fécondité se stabilisaient au niveau actuel, c'est pas mal, hein, on a 80 ans, on l'a vu tout à l'heure, d'espérance de vie à peu près en moyenne, et une fécondité de l'ordre de 2 enfants, eh ben, on aurait encore un vieillissement qui ferait passer la population des personnes âgées de 16%. À 23%. Donc on a encore ça devant nous, indépendamment de toute évolution de fécondité ou de mortalité à venir. À plus long terme, quand les irrégularités de la pyramide seront effacées, quand on n'en verra plus la trace, la proportion reviendrait à 21%, ce qui serait la limite en somme de stabilité avec ces conditions de mortalité et de fécondité. Alors la fécondité, elle va probablement pas beaucoup bouger. Bon, faut espérer qu'elle ne descendra pas beaucoup plus bas qu'actuellement, 1,9 enfants, c'est peu probable qu'elle remonte énormément. Par contre, on peut espérer que l'espérance de vie, elle, continue d'augmenter et que donc on ait un vieillissement qui s'ajoutera à cette tendance-là, qui est la tendance de base. Alors, effectivement, l'espérance de vie telle qu'on la prévoit, alors ça c'est compliqué, les démographes sont souvent très fiers de leurs prévisions, mais il faut reconnaître que dans le domaine de la mortalité, on s'est beaucoup trompé. C'est-à-dire qu'on a constamment sous-estimé la vitesse de réduction de la mortalité. Et quand je dis ça, c'est les démographes contemporains, si je puis dire, et sur des données, des pays qui ont des données très bonnes, aussi bien du point de vue démographique que du point de vue de la santé, etc., on n'imaginait pas que l'espérance de vie pouvait progresser aussi vite. Donc dans toutes les projections, on s'est généralement trompé par défaut. On n'a pas prévu qu'il y aurait plus de survivants que ce qu'on imaginait. Vous savez qu'on a gagné ces derniers temps 3 mois d'espérance de vie par an. C'est quand même beaucoup. Et si on gagnait 1 an par an, on serait immortel, quasiment. Donc 3 mois, c'est quand même beaucoup. Donc on peut penser que l'évolution prévue de cette espérance de vie va pousser potentiellement jusqu'à 29% la proportion de personnes âgées en 2050. 16 aujourd'hui, peut-être 29 en 2050, pendant, aujourd'hui ou en 2000. Alors voilà, donc cette hausse, finalement, si on résume un peu tout ce qui a été dit, et en passant par des calculs que je ne vais pas développer ici, on peut dire que le passage donc des 16% d'aujourd'hui à 29% en 50 ans sera dû pour 5 points aux évolutions passées, sur lesquelles on ne peut pas revenir, on n'y peut rien, pour 2 points aux effets du baby-boom, et finalement pour 6 points à la baisse prévue pour la mortalité. Donc vous voyez que cette baisse de mortalité, même encore aujourd'hui, bien qu'elle se situe essentiellement aux âges élevés, ne contribue que minoritairement au vieillissement attendu. C'est un peu paradoxal, hein, c'est pas évident, et malheureusement, enfin, c'est comme ça que ça doit se passer. Bon, je vais peut-être pas, si, quand même, je vous l'ai dit, l'important, c'est l'évolution de la mortalité au-delà de 60 ans, parce que c'est ça qui va contribuer à ce qu'on appelle le vieillissement par le haut de la pyramide. Et ici, vous avez diverses dates pour la France, tous les 50 ans, enfin, en 1750, en 1900, 1950, 2000, 2050, divers indicateurs, et notamment, vous avez l'espérance de vie à 60 ans, on en a vu tout à l'heure aussi un exemple, on était à 10 ans en 1750, et on est à 32 ans aujourd'hui. Donc là, on voit qu'il y a vraiment eu une grosse évolution, mais entre 1750 et 1900, on était passé que de 10 à 15 ans, ce qui n'était pas beaucoup, alors que l'espérance de vie avait doublé de 25 à 50 ans. Voilà, bon, donc je ne vais pas faire tout le détail de ces chiffres-là, mais c'est pour indiquer que c'est vraiment le phénomène nouveau, majeur, qui se produit depuis le début du XXe siècle, ou le milieu du XXe siècle, que cette baisse de mortalité au-delà de 60 ans. Alors finalement, tout ça, ça se traduit en quoi en termes d'effectifs? Comment ça se traduit en termes d'effectifs? Vous avez la population totale ici en 2010 et en 2070, donc c'est une projection à nouveau. 65 millions de Français à peu près aujourd'hui, et il y en aurait 76 millions dans les projections moyennes que fait l'INSEE. Là-dedans, la population âgée, donc de 65 ans et plus, passerait de 10,5 millions à 22 millions. Donc, elle sera multipliée par 2, alors que la population totale n'augmentera que de 20% à peu près. Donc là, on a donc effectivement un vieillissement à attendre qui sera encore substantiel. Si on détaille un peu plus selon l'âge, on a vu donc les 65 ans et plus. Ici, vous avez les 75 ans et plus. Il y en avait 5 600 000 en 2010. Et on va passer à 13,6 millions en 2070. Pour les 85 ans et plus, on était à 1,8 million, on va passer à 6,3 millions. Et les centenaires, il y en avait 21 000 et il y en aura peut-être 270 000 en 2070. Bon, là, c'est l'ensemble des deux sexes. Bon, évidemment que plus on va vers des âges élevés, plus il y a une concentration en faveur de la population féminine. Parce que quand même, hein, elle bénéficie des progrès plus que les hommes. Voilà, alors, maintenant, si on prend les très grands âges, 110 ans et plus, ça fait 2500 aujourd'hui, avec un record probablement autour de 114 ans. Le record change un peu chaque année en fonction des disparitions des personnes concernées, mais c'est à peu près dans ces eaux-là qu'on se trouve entre 114 et 116, 117 ans, avec une exception fameuse, Jeanne Calment. Si vous êtes dans la génération, si vous appartenez à la génération 1915, il n'y en a plus beaucoup, il y avait 1,6% de femmes qui devenaient centenaires et 0,4% des hommes. Les chances n'étaient pas très élevées. Pour une génération née en 1970, donc il y a une cinquantaine d'années aujourd'hui, on projette qu'il y aura à peu près 13% de femmes centenaires, 13%, et 5% d'hommes. Alors, je passe à l'espérance de vie en bonne santé. C'est aussi ce qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité. Donc c'est le nombre d'années qu'on peut vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne. On l'a vu aussi tout à l'heure, donc les choses qui vous gênent dans votre vie quotidienne. Donc en effet, c'est pas des maladies, c'est certaines formes de maladies, mais ce sont surtout le constat que vous ne pouvez pas bien descendre les escaliers, que vous ne pouvez pas sortir faire des courses, etc. Que vous n'entendez pas bien, que vous ne voyez pas bien. C'est une enquête européenne qui est faite régulièrement, qui permet d'avoir des données au fil du temps et comparatives. La question est, êtes-vous limité depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé dans les activités que les gens font habituellement. Oui, c'est un peu vague, mais faut pas avoir peur des questions un peu générales. Dans ce domaine-là, la question, une question très très simple qui marche, c'est comment ça va. Et si vous posez cette question-là aux gens, ça ne veut pas dire que la réponse sera parfaitement objective, mais l'important c'est le ressenti. Et en gros, c'est pas si mauvais que ça. Quand on prend des critères plus particuliers, par exemple les incapacités, on les définit, on les répartit en incapacités fonctionnelles. Excusez-moi, je vais y arriver avec ma petite machine. Je crois être malin, mais je suis pas très malin. Voilà, les incapacités fonctionnelles physiques. Les limitations sensorielles et les limitations fonctionnelles mentales. Donc on a une série de possibilités dans ces diverses limitations, et c'est sur cette base-là qu'on peut définir si les personnes sont réellement en bonne santé ou pas. Alors, on a posé des questions qui permettent de mesurer du coup la situation vécue dans les années d'espérance de vie de chacun et de chacune. Et on peut comparer avec l'évolution de l'espérance de vie totale. C'est-à-dire, est-ce que les années qui s'ajoutent sont des années en bonne santé ou en mauvaise santé? C'est ça, finalement, le problème fondamental. Si on est pessimiste, on va se dire, bon, ben, ça sert à rien d'augmenter l'espérance de vie si c'est que pour avoir des années vécues avec incapacité. C'est gênant pour les personnes, c'est coûteux pour la collectivité, etc. Alors, les premières enquêtes qui ont été faites ont été, de ce point de vue, assez optimistes, parce qu'elles montraient que il n'y avait pas d'augmentation des années de vie en mauvaise santé au fur et à mesure que l'espérance de vie globale augmentait. Ici, par exemple, c'était une comparaison entre les données de 1981 et 1991. On avait gagné 2 années et demie d'espérance de vie dans l'intervalle, et il y avait même une petite diminution des années vécues avec incapacité pour les hommes, et pour les femmes, c'était sans changement. Donc ça, c'était une vision assez optimiste, on était content. Et puis malheureusement, les enquêtes suivantes, entre ici c'est l'évolution entre 2006 et 2016, ont été moins optimistes, et on a vu que on a pu vérifier que si on gagnait par exemple 2,2 années pour les hommes, eh bien l'espérance de vie sans incapacité, elle, n'avait progressé que de 0,2, et pour les femmes c'était quasiment stable. Donc aujourd'hui, on est moins sûr que les années gagnées sont intégralement des années gagnées en bonne santé. Alors, il est évident que l'âge augmente le risque d'incapacité. Ici, vous voyez la proportion des personnes qui ont donc des limitations dans leurs activités usuelles, dans des enquêtes européennes que j'évoquais tout à l'heure. Donc il est très clair qu'il n'y en a pas beaucoup à 20 ans. Et puis que ça monte très vite. Donc ici, on a, je cherche quelle est l'échelle, les prévalences par âge, bon, passer des pourcents, j'imagine, et on a une augmentation qui est très rapide. Alors, autre question, bon, l'espérance de vie, elle augmente, c'est sûr. L'espérance de vie en bonne santé, peut-être, peut-être pas. Mais est-ce que la durée de vie totale risque d'augmenter fortement? On dit, est-ce que l'espérance de vie actuelle peut continuer d'augmenter? 80 ans, eh ben, passons à 90 et à 100 et à 110 et à 120, etc. Alors, c'est un grand débat, notamment chez les démographes. Ceux qui estiment qu'il n'y a pas forcément de limite ont, par exemple, construit ce graphique. Alors, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est relativement simple. On part depuis 1840 jusqu'à 2040, ou disons 2000 aujourd'hui, et on regarde quelle était chaque année la meilleure espérance de vie observée dans un pays du monde quelconque. C'est pas toujours les mêmes qui sont en avance. On prend le meilleur résultat. Et alors on voit que ça s'aligne parfaitement sur une ligne droite. Donc l'espérance de vie record, c'est la meilleure. Alors on peut penser que ce sont des pays dans lesquels on a appliqué toutes les recettes que nous indiquait Françoise Forêt. Et pour arriver à un meilleur résultat en termes d'espérance de vie, eh bien, on augmentait linéairement et sans qu'il y ait des signes d'affaiblissement. Les courbes qui sont marquées en pointillés ici sont en fait des projections, et une fois de plus on vérifie que les projections sont pessimistes. Les points réels sont toujours sur cette ligne droite. Jusque-là. Donc évidemment, le problème des projections de mortalité, c'est qu'on est constamment en train d'explorer une zone qu'on n'a jamais vue, par définition. Des espérances de vie de 90 ans par pays, ou 81 ans ou 100 ans, on les a pas encore rencontrées. Donc on peut pas savoir ce qui va se passer exactement, alors que prévoir une fécondité à 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, on peut le faire. ça existe, il y a des pays qui ont connu ou qui connaissent ce type de fécondité, donc on n'est pas dans le brouillard. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'ici, apparemment, il n'y a pas de limites qui apparaissent. Alors sauf que, voilà un autre graphique tout à fait différent. C'est un graphique dans lequel on observe la mortalité aux très grands âges. Donc on part, pour une fois, ce n'est pas coutume, 93 ans jusqu'à 120 ans. Alors, on essaie de rassembler aujourd'hui toutes les données de mortalité concernant des personnes très âgées. Un pays ne suffit pas parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui vivent jusqu'à 110 ans pour calculer une table de mortalité au-delà de 110 ans. Donc on essaie de rassembler toutes les données disponibles à travers le monde. Et le point important de ce graphique, c'est ça, ou ça. C'est-à-dire que ça sont deux courbes qui sont plus ou moins observées sur des données européennes ou autres, et on a l'impression que, contrairement à ce qu'on croyait, où traditionnellement on estimait que le taux de mortalité en fonction de l'âge, surtout à ces grands âges, eh bien il augmentait toujours et il aboutirait à 1. Alors 1, ça veut dire que personne ne survit l'année suivante, hein, tout le monde meurt dans l'année. Et au lieu de ça, on a l'impression que ça plafonne quelque part vers 0,5. Ce qui voudrait dire que vous atteignez 110 ans, vous avez une chance sur deux d'atteindre 111 ans. Si vous atteignez 111 ans, vous avez une chance sur deux d'atteindre 112 ans, etc. Et là, potentiellement, il y a des immortels, potentiellement. Parce qu'évidemment, en réalité, il y en aura très très peu qui vont atteindre ces âges-là. Et donc, il y a un moment où il sera tout seul, le malheureux ou la malheureuse, et il faudra bien qu'il finisse par mourir. Bon. Donc, ça ne serait valable, ce type de courbe, que sur une très très grande population, de milliards, dans laquelle on aurait beaucoup de gens qui survivent à 110 ans. Ben là, on pourrait vraiment y voir clair. Sinon, on va être en probabilité, ce qui est pas très intéressant, enfin, qui est moins intéressant. Enfin, en tout cas, sur le plan du conceptuel, disons, ça interpelle un peu ce résultat, parce que ça donne l'impression qu'en effet, on arrive quand même à maîtriser les causes de mortalité, même au très grand âge, et donc peut-être qu'on pourrait comme ça, finalement, avoir des gens qui vivront 110, 115, 120, 130 ans dans les années qui viennent. Alors, en résumé, les arguments de ceux qui disent il n'y a pas de raison qu'il y ait une limite, c'est que l'amélioration des conditions de vie, on le constate, fait qu'à chaque âge, les individus sont en meilleure santé. Ça, c'est un résultat général. Effectivement, les gens de 70 ans aujourd'hui sont en meilleure santé que les gens de 70 ans il y a 20 ans. Donc, on peut penser que le risque de décès est de moins en moins lié à l'âge biologique. Il peut-être dépend d'autres choses. L'évolution des meilleures tables annuelles, on l'a vu, n'a pas de signe de plafonnement. Et, par ailleurs, il y a cette limite des quotients, enfin des taux de mortalité aux âges élevés vers 0,5 par an. Alors, en face de ça, les plus pessimistes disent, bon, ok, c'est ce qu'on a vu dans le passé, mais rien ne prouve que ça va continuer. On a en effet réussi à avoir des progrès par divers moyens, mais il y a peut-être des causes qui nous sont, pour le moment, enfin qui sont incompressibles, et des origines génétiques, par exemple, sur lesquelles, pour le moment, on serait tout à fait incapable d'intervenir. Donc, il y a peut-être quand même une limite supérieure. Tout le monde est d'accord pour dire que s'il y a une limite, pour le moment, c'est autour de 120 ans, à peu près. Hein, d'ailleurs, effectivement, les personnes, il y a des gens qui tiennent aussi les tables du record de longévité année après année dans le monde entier. Donc, ils ont toujours un plafonnement vers 116, 117 ans, comme je vous le disais. On ne passe pas la limite des 120, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. De toute façon, quand on en verra un ou une, comme on en a eu une à 122 ans, Madame Calment, ça prouvera encore rien. Il faudra attendre d'avoir plusieurs cas pour en tirer des conclusions. Donc, pour le moment, on n'a pas de chose qui nous dirait que c'est impossible d'avoir une limite à 120 ans. C'est tout à fait possible qu'il y ait une limite à 120 ans pour des raisons d'horloge biologique ou autre. Il y a aussi le fait que on observe ce qu'on appelle la compression de la morbidité, c'est-à-dire le fait que, certes, on gagne en espérance de vie, donc la mortalité à chaque âge diminue, donc la probabilité de survivre augmente régulièrement, et ici, sur ce graphique, vous avez la courbe de survie. Vous partez de 100% de personnes, et vous arrivez à 0%, et vous y arrivez à peu près à 100 ans. Et ici, donc, vous avez l'évolution de la mortalité depuis 1740, jusqu'à 1997, donc toutes les courbes s'empilent, vous voyez, mais elles ne se décalent pas. elle bute toujours vers cet âge autour de 100 ans, 100 ans, 105 ans. Donc c'est ce qu'on appelle la compression de la morbidité. Une autre façon de le voir, c'est de regarder cette fois-ci la répartition du risque de décès par âge. Ça, c'est le risque de décès. Alors, il était élevé dans le passé, dans la première année de la vie. Ça, c'était en 1890. Et puis ensuite, il a un maximum autour de 70-80 ans. Donc la première, c'est une courbe qui date de 1890, oui, et la seconde, c'est un siècle après 1995. Donc on constate que on a agi drastiquement sur la mortalité infantile. Là aussi, quand j'ai commencé ma carrière de démographe, l'idée qu'on arriverait à 2 ou 3 pour 1000 de mortalité infantile nous paraissait tout à fait farfelu. On était à 10, enfin on disait qu'on pourrait descendre peut-être à 5, 6, 7, 8, mais pas à moins de 5, et on est maintenant à 3 à peu près, je crois, ou à peine. Donc en tout cas, il y a eu une chute considérable, et puis donc ensuite la mortalité remonte. Il y en a toujours ce mode, vous voyez, il se déplace un peu le mode, par rapport à ce qu'on avait un siècle plus tôt. Alors il est plus élevé parce que forcément la concentration des décès est plus forte. Et puis après, ben, il donne l'impression lui aussi de buter toujours vers cette limite de 105 ans à peu près. Donc on a eu un tassement vers la droite, mais avec un plafond de verre qui semble toujours exister. Donc ça, pour le moment, c'est aussi un argument pour dire on va encore gagner, on va pouvoir encore déplacer un petit peu cette courbe. Donc peut-être que dans l'avenir, on va être par là. Mais on aura toujours une chute verticale ensuite pour arriver vers 105 ans. Alors du coup, quelles sont les projections actuelles d'espérance de vie dans les données, dans les exercices démographiques que l'on fait? J'en ai retenu ici 3, le cas du Japon et de la France. Tous les deux sont parmi les pays qui ont les meilleures performances en termes de mortalité globale. On part donc dans les deux cas d'autour de 82 ans. Et si on projette jusqu'à 2100, on pourrait arriver à 106 ans dans la meilleure des hypothèses et pour les Japonais et 104 ans pour les Français. Ce serait plutôt pour les Japonaises et pour les Françaises, d'ailleurs, en réalité. Par contre, pour un pays en développement, alors qui part de bien plus loin, le Libéria, qui part de 58 ans aujourd'hui, bon, on serait quand même à 87 ans, c'est-à-dire la valeur presque actuelle en France. Bon, donc, vous voyez que dans ces projections-là, qui sont à long terme, sur 100 ans, on se risque à aller jusqu'à une valeur de l'espérance de vie moyenne de 105 ans. Bon. C'est basé, encore une fois, sur des hypothèses qui résultent des résultats que je vous ai présentés avant, bien sûr, mais bon, il y a peu de chances que ça soit vraiment bien vérifié à l'arrivée, mais on ne sera pas là pour le voir. C'est ça l'avantage aussi des projections démographiques à long terme, c'est qu'on n'est pas là pour les voir. C'est différent des économistes qui, eux, malheureusement, sont contredits régulièrement, au bout de 2 ans ou de 5 ans. Alors, tout ça a évidemment donc des conséquences économiques. Bon, il y a un très très vaste tableau de type d'études qu'on peut faire, donc je vais faire que d'esquisser sur deux aspects, la charge que représentent les personnes âgées, et puis les conséquences sur les dépenses de santé. Il se développe beaucoup aujourd'hui dans le domaine, alors c'est plutôt des économistes, enfin des économistes de la population, disons, une nouvelle comptabilité qui est celle des transferts intergénérationnels. C'est-à-dire que l'idée, c'est de regarder comment se distribuent les richesses à travers le temps, dans une génération. Le fait que, bien, au début, on vit aux dépens de ses parents, et puis à un moment, on devient autonome, on produit, on consomme, on épargne, et on peut renvoyer de l'épargne vers les générations précédentes ou vers les parents. Donc il y a tout un tas de flux qui se situent aux divers âges et qu'on commence à mesurer de façon un peu plus précise pour comprendre ce qui se passe. Alors là-dedans, eh bien évidemment, il y a la charge des personnes âgées. On sait bien que dans toute population, les plus jeunes et les plus âgés sont à charge des actifs. Et c'est d'ailleurs, enfin, il ne faut pas oublier que c'est toujours à la charge des actifs actuels. On entend beaucoup ces temps-ci, c'est légitime, l'idée, mais j'ai une retraite ridicule, c'est honteux, j'ai travaillé toute ma vie, et j'ai quand même bien le droit d'avoir une retraite. Et en effet, c'est tout à fait logique, c'est complètement clair. Sauf que le système, c'est que ce n'est pas une cagnotte qu'on a accumulée réellement et mise dans un coffre à la Banque de France, c'est qu'on redistribue les cotisations de l'année aux retraités de l'année. Et ça, c'est soumis à diverses variations, et c'est pas toujours un facteur de justice entre les générations. Alors, d'autant plus que ce rapport entre les inactifs à charge et les actifs est appelé à s'aggraver. si la proportion des personnes de plus de 65 ans augmente, eh bien, elles seront plus nombreuses à dépendre de la population d'âge actif. Alors, si on veut aller plus loin là-dedans, donc, il faut faire des calculs qui consistent à passer par les niveaux de production, qui sont aussi les revenus à chaque âge, et puis les niveaux de consommation, également à chaque âge, et ajouter à ça les taux d'épargne et les transferts entre générations, comme je vous le disais, parce qu'on peut épargner, soit pour sa propre vieillesse, soit pour aider les parents, et bien sûr, on peut aussi épargner pour ses enfants. Donc, c'est toute une branche de la recherche, et je ne vais pas entrer dans le détail, parce qu'il y a quand même des petits calculs à faire là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire, pour être plus concret, pour essayer de contenir l'évolution de ce rapport de dépendance, donc qui fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui dépendent des personnes actives? Alors, on pourrait augmenter la fécondité, ça serait un effet sur la pyramide, comme on l'a vu, qui serait plutôt favorable. Pas tout de suite, ça prendra du temps, mais enfin, à long terme, ça peut être intéressant. Bon. Pour ça, il faut des politiques pronatalistes, efficaces. On en débat beaucoup. En France, on a une fécondité qui est restée, comparativement à d'autres pays européens ou développés, relativement élevée, c'est-à-dire à 2 enfants à peu près, par femme. Donc souvent, on nous interroge, on nous dit « Ah, mais comment ça se passe? Comment vous faites en France ?» Bon. Et c'est très compliqué de répondre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui interviennent. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est si la fécondité se maintient, disons, en France, c'est-à-dire que si les gens... forcément, il faut qu'ils aient envie d'avoir des enfants, d'abord. Bon. Mais à supposer qu'ils aient envie, s'ils vont vraiment passer à l'acte, c'est que ils sont dans un contexte où ils ont l'impression qu'on va les aider. Ils ne seront pas tout seuls. Et on les aide comment? Ben, on les aide par le système du quotient familial sur le plan fiscal. On les aide avec des allocations diverses. On les aide en France pas mal quand même avec les aides à la garde des enfants, les crèches, à défaut de crèches, les assistantes maternelles, etc. C'est pas parfait tout ça, mais globalement ça aide quand même pas mal les familles. Le fait que la scolarisation soit quasi gratuite aussi, et dès 3 ans, pas beaucoup de pays qui le font. Donc on a, et puis le fait que les femmes peuvent bénéficier de congés de maternité, bien sûr, et puis un peu les hommes. Tout ça fait un package, disons, dans lequel on a l'impression que, bon, risquer d'avoir un enfant en plus, ça va coûter de l'argent, prendre du temps, etc. Mais, on va quand même pas être tout seul face à cette charge. Bon, maintenant, je crois pas qu'on puisse beaucoup rêver et faire remonter la fécondité française de 2 à 3, comme ça. Bon, donc, le mieux serait déjà de la maintenir. Alors, l'immigration, j'ai sauté une diapo tout à l'heure. Parce que on croit quelquefois que l'immigration peut être une solution. En réalité, c'est une solution de court terme. L'immigration, bien sûr, ça vous fait en général des personnes actives, ou potentiellement actives, qui arrivent et qui vont améliorer les choses dans la pyramide, dans l'activité économique et dans la pyramide des âges. Seulement, eux aussi vont vieillir. Eux aussi, à la fin, voudront une retraite. Et donc, sur le long terme, ça résout rien. Et si vous voulez résoudre le long terme, il faut réinjecter des migrants tout le temps, en permanence. Les Nations Unies avaient fait un calcul comme ça il y a quelques années, qui était un peu délirant à mes yeux, qui montrait que c'était impossible, si on part d'une pyramide des âges très déformée, ou simplement très jeune, c'est impossible d'essayer de maintenir la pyramide simplement par l'immigration. Ça vous amène des millions et des millions et des millions d'immigrants annuels, tout à fait impossible. Donc, à court terme, ça vous allège un petit peu certaines charges, mais à long terme, ça n'est pas une solution non plus. Alors, augmenter la productivité, ça veut dire améliorer ce qu'on appelle le capital humain, par une meilleure formation. Ça paraît un peu évident, c'est-à-dire que si on est plus productif, eh bien, on peut dégager davantage d'argent pour aider les personnes dépendantes. Les spécialistes, nos collègues autrichiens et allemands, misent beaucoup là-dessus. Vous savez qu'en Allemagne, en Autriche, la fécondité est tombée très bas et donc la population serait en décroissance sans l'immigration. Ça les tracasse pas parce qu'ils disent mais il y a l'immigration et il suffit de bien former les migrants pour qu'ils soient aussi productifs que les autres et à ce moment-là, ben tout va marcher. Bon. Bien sûr, il y a le relèvement de l'âge du départ en retraite. C'est pas tout à fait la tendance telle que nous l'a montré tout à l'heure Françoise Forêt. Hein. Et puis, ça serait pas très populaire en ce moment de proposer ça. Et puis, il y a l'épargne qu'on peut encourager en direction des retraités. Mais il faut pas non plus que ça réduise trop les investissements pour lesquelles l'épargne est également très utile. Et puis sinon, la solution, c'est la dette. Hein. On fait des systèmes dans lesquels on donne plus d'argent qu'on en collecte, et puis on a une dette, et puis on l'accumule, et puis on verra bien. Bon. Voilà. Alors, dernière chose, quand même, parce que ça, c'est important, c'est le fait de savoir est-ce que c'est le vieillissement qui est responsable de l'augmentation des dépenses de santé. C'est ce qu'on entend dire. Alors, ici, vous voyez d'abord simplement le constat, c'est-à-dire que la part de la consommation de soins et de biens médicaux dans le PIB est depuis... Bon, voilà. Depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, on voit que ça a augmenté très régulièrement, 2,5% en 1950 et 9% aujourd'hui. Ça, c'est l'ensemble des dépenses de santé, hein, pas seulement les personnes âgées, toutes les dépenses de santé. Bon, peut-être qu'il y a un petit plafonnement aujourd'hui, on n'est pas encore bien sûr, mais c'est sûr qu'il y a eu une augmentation très importante. Alors, on sait aussi que la dépense est liée à l'âge. Bien entendu, on dépense quand même plus pour une personne de 70 ans que pour une personne de 20 ans. Sensiblement plus, puisque là on est autour de 1000 euros par je sais pas quoi, et là on est à 3500. Bon, donc c'est effectivement un accroissement très net. Mais si on regarde l'évolution ici, j'ai rajouté à la courbe précédente 1992, c'est pas très loin, ça fait seulement à peine 10 ans avant. Donc on voit qu'on a décalé vers le haut tous les niveaux de dépenses, et bien entendu spécialement chez les 70 ans. Donc on peut dire, au vu de ça, ben c'est évident. Plus il y a de vieux, plus on va dépenser, donc c'est ça le problème. Mais il faut pas oublier que ça, c'est un point pour les 70 ans, mais il y a tous les autres avant. Et là aussi, ça a augmenté. Alors, chacun a augmenté un peu moins dans l'absolu que les 70 ans, mais le total de toutes ces hausses-là est supérieur à la hausse qu'on observe à 70 ans. Donc finalement, quand on veut comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des dépenses de santé, il faut voir qu'il y a des choses qui sont dues à l'évolution démographique. Plus on est, plus on dépense, évidemment, et plus il y a de personnes âgées, plus on va dépenser. Une autre partie qui est l'augmentation de la part des personnes âgées. L'autre partie qui est la consommation qui augmente avec l'âge, comme on vient de le voir. Et puis, reste ce qu'on appelle l'évolution technique, c'est-à-dire la hausse des coûts qui sont liés aux soins. Et ça, on sait qu'effectivement, il y a des soins, on lit quelquefois des chiffres vraiment astronomiques hein, pour des traitements contre le cancer ou des choses comme ça, avec des prix de revient mensuels à plusieurs milliers d'euros. Donc on se dit qu'effectivement, il y a une évolution technique considérable et des effets inflationnistes non moins considérables. Mais il y a aussi, heureusement, en sens inverse, la possibilité d'un dépistage plus précoce, mais ce dépistage lui-même coûte de l'argent. Et puis, si ça donne lieu à des médicaments préventifs, ça fait aussi des dépenses en plus. Et puis, un petit problème, c'est la consommation dans la dernière année de vie. Ça, c'est bien démontré maintenant aussi qu'il y a un effet particulier. Si vous devez mourir à 80 ans, il y a toutes les chances qu'entre 79 et 80 ans, vous allez coûter plus cher à la sécurité sociale parce que vous aurez déjà des problèmes préalables. Si vous devez décéder à 80 ans, c'est que vous avez déjà une maladie, quelque chose qui va demander des traitements lourds. Donc la dernière année de vie, donc on estime que c'est peut-être quatre fois plus fort que les années précédentes. Donc il y a un régime. Alors plus vous allez élever en âge, l'âge moyen au décès, plus... Voilà. Alors je termine en vous disant que actuellement la contribution à la croissance des dépenses de santé, on estime que c'est lié à 15-25% à l'augmentation de la population, 20% au vieillissement proprement dit, et le reste c'est le recours aux soins qui a augmenté à tous les âges et pour tout le monde, y compris les vieux, mais pour tout le monde. Et donc le total, c'est seulement là-dedans, c'est seulement 20% des augmentations qui sont liées strictement au vieillissement. Ça nous console modérément parce qu'il reste le total des dépenses, mais c'est pour ne pas jeter l'opprobre sur les personnes les plus âgées. C'est pas forcément leur augmentation qui coûte le plus cher aujourd'hui. Je m'arrête là parce que le président commence à me gronder.
Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous avez pu apprécier qu'il y avait un certain nombre de données que Henri Léridon a travaillé, je pense, pour vous en grande partie. Les diapositives, je les connaissais pas, en tout cas de un bon nom. Et en plus, elles sont provocatrices. Elles vont contre un certain nombre d'idées reçues. Je pense que c'est intéressant de les discuter parce qu'elles nous projettent dans l'avenir, même si, mais c'est toi qui le dis, de temps en temps, les démographes peuvent
se tromper,
oui. Qui veut poser une question?
Peut-être que Jean-Ruine.
Oui, bien sûr. Bruno, et ensuite, monsieur.
Est-ce que vous pourriez nous parler des indicateurs de qualité de vie? Comment on les mesure, etc. Parce que ça intervient dans des raisonnements aussi, les dépenses publiques de santé, les qualises, etc. Comment, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots sur comment on mesure ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des batailles d'indicateurs de qualité de vie? Qu'est-ce qu'on fait entrer dedans, etc. Il y a une définition de ça, mais...
Je suis pas spécialiste, Françoise Forêt en serait sans doute plus que moi là-dessus. Oui, on énumère, on a des listes d'incapacités, par exemple, qu'on peut identifier clairement. Si on n'est plus capable de monter un escalier, bon, c'est un fait objectif, ça, effectivement. Si on ne peut plus lire le journal ou je ne sais quoi. Donc, on a toute une batterie d'indicateurs de ce type et qu'on peut, pour lesquels on peut obtenir une réponse fiable, disons, de la part des personnes concernées. Alors, après, il y a, bien sûr, plus on s'éloigne des dépendances les plus fortes, plus évidentes, et qu'on va vers des gènes dans la vie quotidienne, plus ça devient subjectif. Et là-dessus, il peut y avoir effectivement des débats et des évolutions dans les indicateurs au fil du temps. Mais en général, ce sont des trucs internationaux qui sont utilisés, donc relativement comparables. Mais est-ce que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus comme ça de chiffres?
Vous en direz quelques mots plus tard, tout à l'heure.
L'indicateur le plus utilisé, c'est le QD5 pour le médico-économique, qui associe des paramètres d'augmentation de l'espérance de vie, associant en fait à des paramètres fonctionnels, et on les calcule en points d'espérance de vie gagnés, en points quali, donc ça fait des ratios, c'est ce qui est utilisé, mais c'est assez grossier en fait, c'est-à-dire que c'est adapté à des grandes populations de millions d'individus, mais dès qu'on est sur un point particulier où on n'a que 100-200 000 personnes, ça fait passer un peu à côté de la cible. Et après on se retrouve avec les autres... grille de qualité de vie. La plus utilisée, c'est la SF36 qui est une grille avec pas mal de questions et il y a 5 sous-modules. Et puis sinon, il y en a qui sont plus petites et très utilisées, assez portables, qui est la Nottingham Health Profile, qui fait 15 questions et qui est assez utilisée pour des études plutôt de tolérance de médicaments, donc de qualité de vie sur des centaines d'individus à peu près. C'est un point qui est compliqué, en effet, parce que on aimerait pouvoir donner du sens aux chiffres avec la qualité de vie, mais finalement on se retrouve avec à essayer de donner du sens plutôt à des outils que à leur objet.
Merci. Une question pour monsieur.
Merci.
J'aurais aimé avoir des renseignements sur l'espérance de vie en bonne santé suivant le niveau d'études.
L'espérance de vie globale, selon le niveau d'études, je peux déjà en dire un mot. Ce que j'ai en tête, c'est le fait que les écarts d'espérance de vie entre catégories professionnelles, par exemple, ou niveau d'études, ont plutôt diminué au cours des dernières années, et spécialement chez les femmes. Ça, vous avez discuté un peu avec Françoise Forêt. On a plutôt une... Il y avait un grand écart au départ et les écarts se réduisent fortement, alors que chez les hommes, les écarts étaient déjà plus faibles et donc ils se maintiennent à peu près. Donc ça, c'est pour l'espérance de vie totale. Alors en bonne santé, je sèche aussi, je ne sais pas si ça a été calculé ou pas, mais je n'ai pas en tête de donner sur l'évolution de l'EVSI en bonne santé. Mais enfin, ce qui a été dit tout à l'heure laisse supposer quand même que de toute façon, il est évident que l'espérance est meilleure pour les personnes les plus éduquées que pour les autres. Ça, là, je suis prêt à le parier. Ça.
Une question, Bruno, au fond.
Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ah oui. D'accord.
Merci.
Deux questions très différentes. Est-ce que, quand vous parlez du niveau d'études, alors est-ce qu'il y a une étude approfondie sur les, chez la santé des militaires et selon leur grade, est-ce que l'espérance de vie est plus élevée chez ceux qui ont un haut grade ou pas? Les militaires, selon leur grade, est-ce que l'espérance de vie augmente avec le grade? Et bon, je sais bien qu'il y a très peu de femmes, mais est-ce que non, chez là, les c'est... femmes, ça a aussi une influence, le grade? Donc là, ça, c'est une première question.
Oui.
Et l'autre, je veux bien que quiconque réponde, en fait, est-ce que vous avez des indices qui sont plus appropriés ou qui seraient plus appropriés selon que la personne vive à la campagne, donc peut-être une maison de plein pied ou dans une résidence avec escalier. Et, là, c'est catastrophique si on peut plus monter les escaliers. Voilà. Est-ce qu'il y a des pays où ils s'attellent à cette différence campagne et ville?
Pour ce qui est des militaires, bon non, je n'ai pas de réponse parce que on ne peut pas faire des études à des niveaux de population, ça rejoint la question précédente, à des niveaux de population trop réduits. C'est quand même pas beaucoup le nombre de militaires. En France, on en est à quelques dizaines de milliers, si je ne me trompe pas, il me semble. Donc si en plus vous voulez les classer par âge, là c'est pratiquement impossible. Donc autant que pour ma part, je ne connais pas d'études, en tout cas, qui donnent de tels résultats. Alors après, en plus, il faudrait tenir compte de la mortalité spécifique, des risques spécifiques des militaires, bien entendu, qui sont exposés pendant une partie de leur vie à éventuellement des terrains de guerre. Et puis, séparer ça du reste pour savoir si la vie au grand air a une meilleure espérance de vie ou pas. Pour la vie à la campagne... je ne sais pas non plus si ça a été... Je suis dépendant de ce qui est publié, hein. C'est pas que je sois totalement ignorant, mais il y a des choses qui n'ont pas été étudiées, alors on peut rien en dire. Je me souviens pas avoir vu d'études là-dessus, parce qu'une des raisons, c'est que quand on fait une étude de cette sorte-là, on essaye de prendre en compte la mortalité d'une année, en réalité, là aussi. On regarde les statistiques de mortalité de l'année 2000, puis on regarde là-dedans si on a des informations, combien il y avait de personnes de chaque âge, et si certaines ont été plus exposées que d'autres. Le fait de... Alors, le niveau d'études, par exemple, c'est une chose qui est acquise. En principe, grosso modo, pour la vie, vous l'avez. Enfin, en tout cas, vous avez un minimum. Si vous avez été jusqu'au bac, ben, vous l'avez pour toute votre vie. Si vous avez été jusqu'à la fac, vous l'avez pour toute votre vie. Peut-être qu'après, vous allez encore améliorer vos diplômes. Mais au moins, au départ, on sait ce qu'on a. Tandis que la profession aussi, mais la profession peut changer quand même. Donc, au cours de la vie, donc c'est pas très facile. Et quelquefois, on se trompe un peu en prenant la profession actuelle. Et encore plus pour les retraités. Mais alors, donc, la vie à la campagne ou à la ville, bon, ben, faudrait aussi tenir compte du fait que les gens n'ont pas passé toute leur vie au même endroit. Donc, il faut des données sur la mobilité. C'est pas très facile, et je pense que c'est pour ça qu'à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Mais la question de l'escalier, bon, là aussi, je ne crois pas que dans les études sur le logement, on ait cette information-là. Alors, on peut le subodorer si on a l'étage, mais je ne suis même pas sûr qu'on ait l'étage. On sait si la personne habite dans un grand ensemble ou bien dans une maison individuelle, mais après l'individuel peut être au rez-de-chaussée ou elle peut être à deux étages, ça on ne le sait pas non plus dans la statistique.
Je pense qu'on aura des renseignements intéressants avec les objets connectés. Comme vous le savez, avec votre iPhone, vous pouvez parfaitement mesurer le nombre de pas, vous pouvez mesurer aussi le nombre d'étages grâce au gyroscope qui existe dans votre iPhone. Et avec les données massives qui sont à l'heure actuelle possibles à exploiter, ce sera intéressant de regarder. Il y a un papier qui vient de paraître dans Nature dans lequel on voit justement la différence entre l'Arabie Saoudite, si je ne m'abuse, et je ne sais plus quel pays occidental en termes de nombre de pas. On voit que en Arabie Saoudite, pour des raisons qu'on peut comprendre, on marche beaucoup moins dans la rue, tandis que dans les pays occidentalisés, il y a notamment dans les grandes villes, évidemment, il est possible d'avoir un déplacement bien supérieur. Et on pourra faire, je pense, des relations intéressantes, très complexes, parce qu'elles sont multiparamétriques. Mais donc, ce genre de questions pour lesquelles on a un sentiment, une intuition, pourra, je pense, être étayée dans l'avenir proche. On a peut-être le temps pour une dernière question avant une interruption. Et même Bruno m'interdit la dernière question. Bon, alors voilà. Vous avez 10 minutes. Madame, pardon. Alors, dernière question.
Est-ce que vous pensez des études de vos collègues qui s'y perçoivent que la santé des jeunes aujourd'hui est nettement plus fragile et fragilisée que les générations précédentes.
En termes de vie, de qualité de vie, et d'exposition aux maladies, etc., moi, je serais pas capable de là non plus de vous répondre. On travaille beaucoup sur la mortalité des adultes pour des raisons évidentes, en particulier le fait qu'ils soient plus facilement accessibles. Mais pour les enfants, bon, la mortalité, ça, on peut en traiter, mais l'exposition aux maladies, hein, les jeunes, oui, même les jeunes. Bon, on sait aujourd'hui que les drogues se répandent beaucoup. Alors, c'est pas les mêmes, mais aux États-Unis, l'espérance de vie, c'est un pays très développé, mais l'espérance de vie baisse actuellement aux États-Unis. On croyait que c'était réservé à des pays comme la Russie, où on sait que le système de santé s'était beaucoup effondré avec la fin de l'ancien régime. Avant, il était assez bon, mais il a beaucoup souffert de la transition qui a suivi. Donc là, on a des idées, encore que finalement, c'est l'alcoolisme qui semble être la variable principale. Et aux États-Unis, c'est relié essentiellement à la consommation de drogues. Alors, c'est des drogues, heureusement, si je puis dire, beaucoup plus dures que celles que consomment les jeunes chez nous aujourd'hui. Mais du point de vue de leur santé, par contre, ça peut déjà avoir des effets. Hein. Ça, c'est tout à fait probable. Mais on rejoint là aussi les propos qu'on a entendus tout à l'heure sur la nécessité de la prévention dès l'école, en général.
Merci beaucoup. Donc, 10 minutes pour se retrouver. Merci bien. Parfait, merci Henri.
Je commence. On y va tout de suite ou pas? Nous allons... Voilà, nous allons reprendre... Je sais pas si vous m'entendez. On est sûr que ça marche, voilà. Nous allons donc reprendre nos débats. Je vais attendre que tout le monde soit assis, voilà. Il me revient d'animer ce deuxième moment dont vous avez noté qu'il obéit à un objet non identifié puisqu'il est médico-philosophique, socio-politique. Alors, quelques mots pour introduire ce moment et les deux intervenants. Bien vieillir. Est-ce que c'est un choix individuel? Est-ce que c'est un choix collectif? Est-ce que c'est les deux? Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle. Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est un choix de vie assumé en confiance? C'est un peu ce que nous allons essayer de discerner avec nos deux intervenants. Alors, c'est en effet une question, j'allais dire, philosophique, puisque cela nous ramène au sens de la vie. Au fond... Que signifie tout simplement vivre? Parce qu'on peut considérer que, soutenir que vivre, c'est sans cesse vieillir. Et qu'on a d'autant plus de chances de bien vieillir que l'on se pose la question jeune. Parce que vieillir participe tout simplement du mouvement de la vie. Et donc, situer les âges de la vie avec leurs caractéristiques, leur bon côté et leur moins bon. Il est vrai que quand on vieillit, la résistance physique et la mémoire faiblissent, mais je pose la question, est-ce que les vertus essentielles de la vie, le courage, la générosité, l'humilité, la sagesse, ont-elles un âge? C'est une question politique aussi. Parce que, cela a été dit dans l'exposé de Madame Forêt, on ne vieillit pas seul, ou en tout cas, on ne souhaite pas vieillir seul, tristement, perdu. On est dans un milieu familial, social, communal, et vivre, bien vieillir, engage au fond plus que soi. Les autres, vos proches, mais aussi vos concitoyens qui peuvent profiter de votre joie de vivre, puisque l'expression a été employée, de votre engagement. Il a été indiqué que l'engagement sous des formes multiples était un facteur de résistance au vieillissement. Et il me semble que nous avons des raisons de penser, et c'est la raison pour laquelle il y aura un deuxième temps avec Madame Imbert, que c'est une responsabilité collective, et donc des élus, que de veiller à ce que la cité laisse sa place à chacun. Une vieille nation comme la nôtre a bien besoin de soutenir sa jeunesse. Et le fait-elle quand on voit les perspectives écologiques, ou tout simplement le niveau de la dette dont on a compris avec le démographe qu'il était le moyen le plus facile de faire face à la situation. Et puis une équipe municipale ou départementale sait bien ce que c'est que d'assurer la solidarité intergénérationnelle. Connaissez-vous la tristesse des communes qui n'arrivent plus à retenir leurs jeunes, ou de villes indifférentes au sort de leurs vieux? Voilà, donc c'est pour ces raisons que ce temps du colloque nous paraît important. Vont intervenir successivement le professeur Gilles Berru et Madame Corinne Imbert, un homme et une femme. Vous avez noté notre souci de parité devant ce colloque. Madame Imbert est pharmacienne, Monsieur Berru est médecin. L'une fait de la politique, l'autre fait de la philosophie. Et ils ont en commun de venir du Grand Ouest, des vents dominants, ceux qui apportent souvent la fraîcheur. Et l'un et l'autre portent la conviction que vieillir n'est pas seulement un défi individuel, mais en effet un défi collectif. Alors Madame Imbert, que je vous présente rapidement, est engagée en politique depuis près d'un quart de siècle. Elle a été maire de sa commune, une grande métropole d'équilibre, Beauvais-sur-Martin. Elle a été vice-présidente de son conseil départemental, la Charente-Maritime, en charge de l'action sociale, des affaires sociales, et elle est sénatrice depuis 5 ans, c'est presque 5 ans, et elle a été nommée membre du comité consultatif national d'éthique, et elle nous parlera, et donc comme sénatrice, elle est en charge, elle suit les affaires sociales et toutes les lois qui portent sur les questions que nous allons traiter. Et elle nous dira comment, dans son expérience politique, elle traite ou elle envisage cette question du vieillissement. Le professeur Berru est gériatre, il est chef de pôle au grand CHU de Nantes, et il a fondé un gérontopôle, Autonomie des Pays de la Loire, sa région dont il nous parlera. Je ne veux pas dire avant lui ce que revêt cette notion de gérontopôle. C'est lui qui va parler le premier. Je voudrais le citer à propos de notre sujet parce qu'il disait dans un entretien, au moment de la loi autonomie, je crois, que face aux défis du vieillissement, il souhaitait qu'on cesse de parler de personnes âgées. Parce que, disait-il, c'est une dénomination homogène qui fait abstraction de l'extrême diversité des situations entre les seniors qui peuvent voyager, qui ont des grandes familles, qui ont pu éventuellement accumuler des ressources suffisantes, et puis la malheureuse dame de 75 ans, il le cite, qui est veuve et qui vit avec une pension de réversion de moins de 800 euros par mois, et qui donc se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Et il nous disait donc, parler de personnes âgées est un cul-de-sac intellectuel, et je ne doute pas qu'il va nous permettre maintenant de sortir de ce cul-de-sac. Vous avez la parole pour une trentaine de minutes, monsieur le professeur. Merci.
Ton qui va bien, et ça va beaucoup mieux. Voilà. Merci pour cette introduction qui me met en route d'emblée. Et je ne résiste pas, dans le tel contexte du Centre Sèvres, de dire que le vieillissement est, dans le monde antique, un cadeau des dieux, et pour le peuple sémitique, un cadeau de Dieu. Le psaume 89 nous dit, et bien sûr le nombre de nos années, 70-80 pour les plus vigoureux, et celui qui vivait longtemps, c'est celui qui a été évidemment récompensé à une époque où la résurrection était peu courante dans la pensée, et c'était le Sheol qui était le bout de la vie, et donc vivre longtemps était une récompense, un cadeau. Et c'est vrai que cette vision-là est toujours complexe, c'est pour ça que la personne âgée n'existe pas, et on a une ambivalence culturelle très forte à concevoir la personne âgée. Pour reprendre dans le répertoire biblique, eh bien, on a deux personnes, on a Job et Moïse, qui sont deux vieux. L'un qui, évidemment, se retrouve veuf avec tous ses enfants, 7 garçons et 7 filles perdus. Et puis, toutes les granges ont brûlé, et il est là à interpeller Dieu de cette sorte d'ingratitude dont il fait l'objet. Et puis, Moïse, qui était la figure d'une puissance tutélaire qui donne la loi, qui donne le cap, qui montre où se trouve la terre promise, même s'il ne doit jamais y aller, étant donné qu'il décède sur le mont Nebo. Et donc, on voit bien qu'on a d'emblée deux figures importantes de l'image du vieillissement, celle de la vulnérabilité, de la vie qui est dure, et qui est quelquefois l'objet de souvenirs douloureux, ou de l'impression d'être passé à côté de sa vie, etc., ce que l'on entend assez souvent en consultation, de personnes qui ont une relecture de leur vie, avec tout ce que ça porte, et puis d'autres qui représentent une sorte de pouvoir moral, pouvoir, aujourd'hui on parle beaucoup aussi du pouvoir d'argent de certaines personnes. 73% du foncier en France appartient à des personnes de plus de 70 ans. Donc, il y a 924 milliards d'euros du bas de laine de la France qui appartiennent en grande majorité à des personnes âgées et qui nous permet d'avoir un double A+, alors que nous sommes pratiquement sans croissance. Et donc, il y a ces deux images, la veuve avec sa pension de réversion, le riche propriétaire foncier qui n'a pas beaucoup de liquidités pour payer la maison de retraite, mais qui a beaucoup de biens et dont il ne sait pas trop comment les monnayer pour essayer d'en transmettre le maximum. Et on a ces deux visages en permanence. J'étais l'autre fois dans un atelier de travail à l'Assemblée nationale, et on allait de comment combler pour ceux qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, et comment, disait un spécialiste, liquéfier le patrimoine pour permettre de maintenir à domicile, etc. Et donc, on est en permanence chahuté dans cette hétérogénéité de l'image du vieillissement. J'aimerais apporter à votre réflexion un deuxième regard que quelquefois on oublie, parce qu'on est sur une sorte d'éternité de la personne âgée, et on oublie quelque chose. C'est une notion qui était critiquée d'ailleurs par certains sociologues, dont Bourdieu, qui est celle de génération. C'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Tout le monde pressent intuitivement ce que c'est qu'une génération, mais quand il faut le définir, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour cela, je voudrais reprendre sur notre pyramide des âges de la France pointer un aspect important qui est entre 1930 et 1960. À partir de la crise de 29, vous avez une baisse importante de l'espérance de vie. Vous avez une baisse importante de la natalité. Et donc les générations entre 1930 et 1940 sont peu nombreuses. Et ce sont les personnes âgées d'aujourd'hui, on dit « oh là là, il y en a beaucoup ». Alors que c'est une génération peu nombreuse. Puis vous avez à partir de juin 44, ça commence, et en 45 ça s'établit, le fameux baby-boom, accident historique qui ne reviendra plus jamais. Les démographes estiment que près de 30% des enfants du baby-boom sont nés par la méthode Ogino. Et comme par hasard, ça s'arrête en 73. Alors on dit que c'est la crise économique, mais ça peut être aussi une loi bien connue. Et donc, sur un accident démographique important qui fait qu'on a un taux de natalité qui croît de manière incroyable, et avec la même chance de vie que ceux des années 30, qu'on estime être déjà beaucoup. Et donc finalement, la vraie fracture, la vraie transition numérique du vieillissement va commencer en 2025-2027. C'est le rendez-vous avec l'histoire, il est là. On est le dernier quinquennat à pouvoir réfléchir comme si c'était loin. Mais en 2027, on va avoir une croissance très très importante des plus de 80 ans, et donc une croissance des personnes potentiellement à risque de dépendance. Cette augmentation se poursuit jusqu'en 2035, se maintient en plateau jusqu'en 2060, pour revenir à la normale vers 2100-2105. Donc ça veut dire que la vague des baby-boomers, qui en France commence en 45, comme je l'ai dit, finit en 73, alors qu'aux États-Unis ça finit en 56, le baby-boom. Mais en fait, le fait est, c'est que ce baby-boom a été soutenu par une croissance économique, mais aussi par une politique de natalité très forte. Et donc, et puis les lois 75 aussi pour la réduction de la mortalité infantile, et qui se préparait déjà avec la loi de 67. Donc, finalement, on a une augmentation du nombre d'enfants très très importante en France, et qui est très particulière, assez unique au monde dans sa durée de 30 ans. Les Chinois ont leur baby-boom en 1935, après la République de Chine, la chute de Sun Yat-sen en 29, et puis l'installation d'un régime qui se voulait novateur, mais ça va s'arrêter dans les années 40. Donc, on a affaire à un défi particulier. Mais derrière cela, derrière ces chiffres, il y a aussi des réalités culturelles. La personne âgée, dans notre tête, assez souvent de manière un peu paradigmatique, c'est Jules. Jules, c'est celui qui est né à la fin du 19e, qui a fait la guerre de 14. Il est marié avec Yvonne ou Marguerite pendant 60 ans, et il va avoir un emploi dans la vie, et il représente une sorte de stabilité du monde. Voilà, il est né sous le franc germinal, on a dit déjà beaucoup de choses là. Et cet homme de la Troisième République, assez sûr de ce que c'est qu'une nation, le devoir de famille, etc., va construire en fait un idéal que vont porter les générations nées dans les années 30, qui ne s'en démarquent pas du tout. Ils vont trouver quand même que de parler de la guerre de 14, c'est un peu lassant, mais en fait, ils reprennent quand même les modèles. Par contre, Philippe, qui est né en 45, n'a rien à voir avec Jules. Philippe est né en 48, il jette un pavé sur un CRS en 68, il part à la retraite en 2008. Les choses sont claires, en apparence, parce que Philippe, en fait, appartient à tout à fait une autre appartenance au monde, une interrogation, une remise en cause des modèles, et une faible capacité à transmettre un modèle. C'est une génération qui ne transmet pas, qui interroge, parfois détruit, parfois fait faire des progrès, mais transmet peu. Et donc, on voit bien que la génération des personnes qui vont fréquenter, par exemple, les institutions gériatriques, vont complètement se modifier dans les 10 ans à venir. On a, en fait, des enfants de Jules aujourd'hui, demain, on aura des Philippe. Bon, les Philippe sont mariés en général avec des Brigitte, mais je m'arrêterai là-dessus. Alors, finalement, on a une différence de culture. On a une différence de culture. Et alors après, on parle de génération X, Y, génération Z, etc., etc. En fait, chaque génération est véritablement une manière de regarder le monde. Et je dis souvent, l'intergénérationnel, c'est de l'interculturel. Rencontrer quelqu'un d'une autre génération, c'est rencontrer quelqu'un d'une autre culture. Et chaque génération invente sa manière de vieillir. C'est pour ça que la gériatrie, ce n'est pas le regard sur le rétroviseur, mais c'est être toujours ouvert à la nouveauté du vieillissement qui se réinvente en permanence, surtout dans notre siècle de bouleversement. L'autre grande fracture qui fait que des gens de 60 ans comme moi sont à regarder les gens de 40 ans avec des yeux tout ronds, c'est la fracture numérique. C'est que l'appartenance au monde, à la société, à la relation interindividuelle, je dirais même à la politique, où on peut faire un mouvement politique sur un réseau social en simplement donnant un mot d'ordre. On peut discuter de ce que je viens de dire, mais enfin quelque part, ils sont arrivés à faire une révolution en Tunisie avec les réseaux sociaux. Donc on arrive à faire des choses assez surprenantes avec les réseaux sociaux. C'est aussi une autre appartenance au monde, une autre vision. Et donc, quel sera le vieillissement de Kevin? Aujourd'hui, Kevin a des écouteurs, il a le jean entre les genoux, il a un skateboard, il parle d'MP4, de MP3, mais il va avoir 85 ans, Kevin. Eh bien, ça aura rien à voir avec le vieillissement de Philippe. Et donc, vraiment, il faut qu'on pense culturellement également le vieillissement. Alors, assez curieusement, en fait, je me suis rendu compte que le mot vieillissement est une définition assez particulière dans notre civilisation post-moderne, si on considère que moderne commence à la Renaissance. Par exemple, si on prend le dictionnaire Larousse, qu'est-ce que le vieillissement? La dernière période de la vie normale qui succède à la maturité, c'est précis, caractérisée par un affaiblissement global des fonctions physiologiques et mentales. Et d'ailleurs, Robert poursuit en disant que c'est simplement l'évolution inexorable du vivant vers la mort. C'est métaphysique. Alors quand même, pour Robert, il y a une exception, c'est le vin et le fromage. Et si on regarde le dictionnaire Furtière, qui a été écrit dans les années 1670, eh bien on ne parle que de l'avantage de la personne âgée, de son expérience, de la transmission du savoir, de l'utilité de la personne âgée dans la communauté, etc. Que des choses finalement positives. Et puis, on parlait des militaires tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire avec militaires et vieillissement, puisque ce sont les seules populations au grand siècle pour lesquelles nous avons des données, ça a été les travaux de Jean-Pierre Bois en particulier, et le monde des vétérans, vétéran vient du mot âgé, la loi d'amalgame de Sambre-et-Meuse de l'an 2, c'est de mettre les anciens avec les nouveaux pour que les nouveaux se fassent pas tuer tout de suite sur le champ de bataille, et donc on avait besoin des sénex, qu'on donnait d'ailleurs le mot sénateur. C'est-à-dire la sagesse de la deuxième chambre, qui va regarder quand même les trublions de la première chambre avec condescendance. Donc, on voit bien que il y a derrière ce mot vieillissement quelque chose qui est apparu à l'époque des dictionnaires du 19e, qu'il n'y a pas dans les dictionnaires du 17e et 18e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement la révolution industrielle. La révolution industrielle a fait que notre appartenance à la société est liée au travail. Notre valeur est liée à notre production. Et donc, celui qui est vieux, c'est celui qui ne travaille plus. Et donc, il vit du travail de l'autre. À partir du moment où notre appartenance à la société est liée au travail, dans ce cas-là, la personne âgée n'est plus celle qui va donner du savoir, transmettre, être utile. C'est la personne qui va profiter. Et cet élément est très important à comprendre parce que, comme aujourd'hui, nous sommes à une époque de post-industrialisation, où on fréquente assez souvent des concepts comme l'inclusion sociale, où on se pose vraiment la question de qu'est-ce que l'appartenance à la société ? Si vous mettez les personnes qui sont au chômage, en grande précarité et pauvreté parce qu'ils n'iront jamais vers un emploi, les personnes qui ont un handicap qui leur permettent pas de travailler, les personnes qui, pour des raisons multiples, sont hors des circuits de formation et qui vont pas accéder aux 43 annuités attendues, plus les personnes âgées et les enfants qui travaillent pas encore, vous avez 50% de la population qui est parasite. Donc, si appartenir à la société, c'est le travail, si être un bon syndicat, c'est de défendre uniquement les travailleurs, évidemment, les ronds-points jaunissent. C'est obligatoire, parce que finalement, on a un modèle d'exclusion et pas d'inclusion. Et les personnes âgées, ça représente en fait la sorte d'image tutélaire des personnes hors travail, parce que pour toutes les autres, on pourra trouver une cause qui leur appartient, une sorte de de particularités qui font qu'elles ne sont pas au travail. Lui, il est malade. Lui, il est handicapé. Lui, ils sont pauvres de père en fils. Mais la personne âgée, c'est l'universalité de la vie. Donc, on se retrouve finalement avec la personne âgée à se poser la question que dans notre vie humaine, dans ce qui appartient finalement au cours de la vie, on devient progressivement âgé et donc exclu de la société du travail. Et les 12 millions de personnes âgées, c'est un argument formidable pour repenser l'inclusion sociale. Si nos sociétés, nos cités, nos organisations territoriales, nos institutions ne peuvent pas laisser place à la personne âgée, alors elles vont pas laisser place à la personne en situation de handicap, à la personne en situation de pauvreté et de précarité. Ne pas accueillir la personne âgée dans la vulnérabilité de l'universel, c'est tout simplement imposer à tous les autres l'exclusion. Et donc le combat pour les personnes âgées devient autre chose que la charité vis-à-vis des dépendants qui sont incontinents urinaires, c'est tout simplement repenser la société dans une période de l'après-travail, puisqu'il faut le dire. Alors, on va dire, d'accord, très bien, mais là vous vilipendez le mot vieillissement, mais qu'est-ce que le vieillissement? Est-ce qu'il y a un vieillissement normal? En fait, en y réfléchissant, on se pose une question qui est assez essentielle. C'est quoi le vieillissement? Est-ce qu'il y a un vieillissement normal? Si il y avait un vieillissement normal, ça serait l'évolution d'un organisme, par exemple, si on est dans le monde du vivant, qui n'aurait comme seule variable le temps. C'est-à-dire que tout ce qui surviendrait ne dépendrait que du temps. Et dans ce cas-là, on aurait un vieillissement normal. Mais en fait, le temps n'existe pas en lui-même. Le temps n'existe que par ce qu'il occupe. Si je vous mets au fond d'une grotte au bout de 3 semaines, pour vous, une journée égale 3 semaines. Et même votre pic de cholestérol, toujours fier à 8h le matin, va survenir tous les 15 jours. Le temps est relatif. Il est relatif à la génétique qui va rencontrer l'environnement. Il va être relatif aux événements personnels, aux événements collectifs, aux maladies, etc. Et que finalement, une personne âgée est le fruit d'une génétique rencontrant un environnement, des habitudes de vie, des événements, des maladies. Donc chaque personne, finalement, vieillit à sa manière, puisque nous vivons chacun avec une génétique différente et des événements différents. On le voit très bien, d'ailleurs, si on prend une autre définition de la normalité, qui est la loi normale, la loi gaussienne, où le mode égale la médiane, on a une répartition tout à fait symétrique. Prenez par exemple la glycémie chez des enfants qui sont en classe de CM2. Alors là, vous prenez 1 million d'enfants, ils sont tous à 1 gramme. Bon, vous en avez 3-4 diabétiques qui vous font des points un peu absurdes, mais tout le reste, vous êtes à 1 gramme avec un écart-type tout petit, 0,1, 0,2. Maintenant, dans cette salle, nous allons faire la glycémie. Et alors là, c'est les montagnes russes. Il y a ceux qui n'ont pas mangé, alors ils sont un peu en hypo. Ceux qui ont oublié de prendre l'antidiabétique, donc ils sont un peu... Ceux qui sont intolérants au glucose, alors ils sont entre les deux, ils sont entre 1,15 et 1,26. Voilà, etc., etc. Et que finalement, le réel, la variabilité biologique, mais ceci c'est vrai pour tout, pour les performances, la mémoire, l'activité physique, que sais-je, on a une immense variabilité avec l'âge. Et donc on peut l'affirmer tranquillement. Le vieillissement normal n'existe pas. Et combien de fois on l'entend ça? Surtout sur ceux qui sont les tendres, ceux qui tiennent la nosologie comme le centre de la santé. Moi, je m'occupe de maladies d'Alzheimer. Alors, dans le vieillissement normal, on a des troubles de mémoire, petits. Mais moi, c'est la maladie d'Alzheimer. Ça ne veut rien dire. C'est une phrase qui ne veut rien dire. Et donc, Si le vieillissement normal n'existe pas, ça veut dire que nous sommes du coup tous normaux d'être différents. C'est intéressant ça. C'est à l'image de notre vie. Alors, on pourrait se dire d'accord, on entend bien ce que vous dites, mais enfin quand même, il y a des vieillissements agréables à vivre et d'autres qui le sont moins. Et là, je ne pourrais que redire et mal ce qui a été très bien dit par le professeur Françoise Forêt. Je pense que le point clé, c'est le retentissement vasculaire sur le cerveau. Je vais m'expliquer un peu plus là-dessus, parce que ça pourrait vous sembler très réducteur par rapport aux aspects sociaux, aux aspects activité physique, etc. Parce que tout rapporté à cette espèce d'organe dans sa boîte là-haut. Mais en fait, le regard que l'on a sur le cerveau, et en particulier en France et dans certains pays européens, c'est on a en tête en fait un cerveau non cognitif. C'est-à-dire qu'on a appris que le cerveau il servait à faire des mouvements, de la sensibilité, la sensorialité, et puis sûrement que la psychologie, ça doit se trouver là-haut. Mais, et au contraire du Canada et des États-Unis qui, dès les années 30, ont travaillé beaucoup cela, la cognition est vraiment la boîte essentielle qui fait que nous pouvons vivre en étant en relation. Cognos, le savoir, la connaissance. Dans la cognition, vous avez deux aspects. Vous avez l'aspect mémoire, calcul, langage. Je vais dire, ce sont les instruments. Un peu comme si vous prenez Microsoft Office, vous avez PowerPoint, Word, Excel. Voilà. Il y a des blocs logiciels. Et puis, vous avez une autre partie qui est plutôt située dans la partie antérieure du cerveau et profonde, qui sont les fonctions exécutives. Pour donner une image, c'est un peu le général en chef. C'est le général en chef qui dit, pour maintenant, on va faire du calcul, du langage. Il donne des ordres à la partie instrumentale. Ce général en chef, il permet d'organiser notre vie, il permet d'apprécier la relation avec l'autre, c'est ce qu'on appelle la cognition sociale, il permet d'adapter le mouvement, il permet d'équilibrer notre marche en fonction des obstacles, il permet dans une conversation d'essayer de comprendre ce que pense l'autre, de choisir le bon mot en fonction du bon contexte, il nous permet aussi la psychologie, c'est-à-dire que quand vous, après 60 ans de mariage, on devient veuf, ou veuve, il faut quand même faire un travail de deuil. Avec quoi on fait le travail de deuil? Avec quoi on apprend l'absence? Mais avec les fonctions cognitives. C'est une véritable stratégie. De la même manière, l'anxiété, comment on gère l'anxiété? C'est tout simplement parce que on la met en perspective par la cognition. Or, ce général en chef, qu'on appelle aussi l'administrateur central, il se situe dans une zone du cerveau qui est irriguée par des toutes petites artères, on appelle capsulo-lenticulaires, qui naissent directement à flux continu des carotides. Et c'est le lieu qui est impacté, comme par hasard, par l'hypertension artérielle, par le diabète, et qui va souffrir la fibrillation atriale. Avec ces trois maladies, vous avez 80% des gens de plus de 80 ans. En fait, cet administrateur central, il nous permet de fonctionner intellectuellement, mais aussi psychologiquement et affectivement. Il nous permet d'être en relation sociale, il nous permet d'utiliser l'environnement. C'est lui qui est la cause de la fameuse dépendance qu'on a voulu nous vendre comme une affaire sociale. La dépendance est sans doute avec une conséquence sociale, mais avec une cause qui est sanitaire et qui est cognitive. 900 000 patients Alzheimer, 1 270 000 dépendants, et vous avez, en plus des Alzheimer, tous ceux qui sont vasculaires. En fait, quand vous demandez l'APA, c'est que vous avez une atteinte des fonctions exécutives. C'est la même chose. Pourquoi on a un épuisement des personnels en EHPAD? Parce qu'on leur dit qu'ils sont là pour la dépendance. On leur dit pas qu'ils sont les coachs de la cognition de l'autre. On se trompe complètement sur les objectifs, sur la formation. Et ça, c'est un véritable problème qui engendre beaucoup de souffrance et beaucoup de dépenses inutiles. Et donc, on est avec ce carrefour cognitif au cœur même du look dépendant, du look vieillissant. Quelqu'un qui marche à petits pas, qui est un peu plus lent, qui a moins de réaction, va dire « Ah bah il fait vieux ». Oui, parce que en fait ce sont ses fonctions exécutives. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce que dans le même temps que les fonctions cognitives vont modifier notre manière d'être avec les autres, de réfléchir et d'être au monde et d'être avec nous-mêmes, il y a une autre puissance assez mystérieuse qui lui est associée. Un peu comme si c'était un moteur à deux temps ou deux disques ensemble. Alors pour essayer de le figurer, je vais puiser dans un répertoire philosophique en utilisant le concept de Conatus. Pourquoi ? Parce que Spinoza, alors c'est éthique 3, proposition 17 à 20, bon, essaye de comprendre pourquoi en fait les choses persévèrent en elles-mêmes. Pourquoi ce qui est, est ? Pourquoi l'étant est ? Pour reprendre une version un peu d'Asein Heidegger. C'est-à-dire, il y a une force qui tente non seulement à nous maintenir, mais à persévérer, à vivre, et, dit la troisième proposition, à en être heureux. On a quelque chose de tout à fait mystérieux qui est ce bonheur d'être. Et tout à l'heure, on parlait du vieillissement finalement comme une relation au temps. Et donc, sûrement que la manière de parler du vieillissement, je dirais d'une façon crédible et qui renvoie au fait qu'on peut très bien être avec une maladie chronique. Tout à l'heure, on posait la question, mais c'est quoi le vieillissement en bonne santé alors que vous mettez les gens ayant une maladie ? Mais parce que je peux avoir un diabète grave et être heureux d'être là. Alors c'est sûr que l'économiste de la santé va trouver qu'il faut absolument m'éliminer. Mais moi je suis heureux d'être là et j'ai envie de persévérer à être. C'est le conatus qui est plus fort. Et du fait qu'on ne peut pas penser le vieillissement sans penser en même temps à notre pulsion incroyable d'être et de persévérer. Mais elle prend où ? Quelle est la source de ce conatus ? Alors, on pourrait le dire en termes philosophiques, on peut évidemment le dire en termes spirituels. Mais pour rester sur un registre philosophique, en fait, on va le rattacher à une autre notion qui est assez intéressante et qu'on trouve chez Aristote. Il reprend la notion de l'autonomie politique de Thucydide pour en faire une donnée de la vertu en disant le suprême de la vertu, c'est d'être heureux, c'est le bonheur. Eh bien, nous avons en fait la volonté qui dépasse, je dirais, même le fait de le penser, qui est de vouloir être heureux et de tendre vers le bonheur, qui est le suprême vertu. Un peu là où saint Thomas, pour ceux qui font un peu de théologie, met la charité, la foi et l'espérance, et juste au-dessous la prudence, Aristote va mettre le bonheur, et pour y arriver, il faut pouvoir conduire sa vie selon sa volonté, ça s'appelle l'autonomie, auto-soi-même, nomos la loi, je me donne ma loi. Mais dans ce cas-là, on n'a rien à voir avec l'autonomie fonctionnelle qui n'est pas la dépendance. On a affaire à une autonomie qui va être reprise par les philosophes de l'Aufklärung, en particulier Kant, derrière la notion de respect de citoyenneté. C'est-à-dire que l'autonomie renvoie tout simplement à l'existence de la personne comme sujet pensant, comme sujet décidant, et donc le citoyen. Et la boucle est bouclée. C'est-à-dire que derrière le conatus qui persiste malgré l'altération cognitive, eh bien il y a la dignité irréfragable de la personne qui est là, qui prend siège, et qui donne sens évidemment à tout ce qu'on peut faire et penser et soigner dans le domaine de la gériatrie. Je sais pas, j'ai dû dépasser l'horaire, et donc je m'arrête là, et je vous remercie pour votre attention.
Alors nous allons ouvrir le débat, sachant qu'on a pris un peu de retard, Bruno, sur le... Alors, est-ce qu'on donne la parole à Madame Imbert et puis on prend les questions après, ou est-ce qu'on fait comme avant ? Il me semble que, comme Madame Imbert va évoquer la mise en œuvre très pratique dans ces territoires de ce qu'est l'action pour
alors, faisons le lien entre les deux, puis après on prend tout le temps qui nous reste
et on, prendra le reste
et on partagera les questions avec les deux autres intervenants du
très bien.
Début d'après-midi. Merci.
En tout cas, j'avais indiqué que le professeur Berru était philosophe, je crois que vous en êtes convaincu, et nous le remercions pour nous avoir emmené vers ces sommets qui nous donnent de la joie. Et je demande donc à, je remercie Madame Imbert, j'aurais dû dire d'ailleurs que l'un et l'autre viennent donc de loin et sont venus pour nous éclairer, et nous les remercions de prendre du temps. Et c'est maintenant Madame Imbert qui va nous parler de son expérience en Charente-Maritime.
Bien, bonjour, bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir convié à participer à cette conférence. C'est pour moi une première, donc j'espère être à la hauteur de vos attentes. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis parmi vous cet après-midi. Et puis, après l'intervention brillante, philosophique du professeur Berru, je voudrais tout d'abord vous présenter tous mes meilleurs vœux. De bonheur, bien sûr, de santé, évidemment, de bien vieillir naturellement, avec sérénité, optimisme et j'espère, beaucoup d'apaisement. Voilà. Ceci étant, je vais donc vous donner, en tout cas, vous témoigner de mon activité en tant qu'élue, sénatrice depuis un peu plus de 4 ans, comme l'a rappelé Monsieur Pic, conseillère départementale, qu'on appelait autrefois conseillère générale depuis bientôt 11 ans, élue municipale dans un petit village de Charente-Maritime, Beauvais-sur-Matha, au lieu de la Charente-Maritime, puisqu'à 135 mètres d'altitude vis-à-vis de Royan et de La Rochelle, nous sommes bien au-dessus, vous l'imaginez bien. Mais surtout, un regard, alors je suis membre du Comité consultatif national d'éthique. Monsieur Bruno Sainteau a évoqué tout à l'heure le rapport, l'avis du CCNE qui a été rendu public l'année dernière avec les enjeux éthiques du vieillissement et un sous-titre « Quel sens a la concentration des personnes âgées entre elles dans des établissements dits d'hébergement ?» Vous voyez que ça fait froid dans le dos. Le rapporteur était Régis Sobry, médecin spécialisé en gériatrie et chef du service des soins palliatifs du CHU de Besançon. Un avis intéressant qui fait état des changements sociétaux qui ont modifié la possibilité d'accompagner au domicile ses parents, voire ses grands-parents. Également constatant l'éloignement géographique des enfants et petits-enfants vis-à-vis de leurs parents et de leurs grands-parents. Et donc le politique, dans tout ça, il essaye d'inventer des organisations intergénérationnelles, avec lien social, bien vivre ensemble et inclusion. Tout un programme. Où est l'humain dans tout ça? L'intergénérationnel, j'ai bien noté que c'était de l'interculturel, professeur. Mais ça laisse tout un programme. Pour moi, et peut-être encore plus ici au Centre Sèvres, l'intergénérationnel, la première cellule intergénérationnelle, c'est quand même la famille, me semble-t-il. Mais c'est vrai qu'avec l'éloignement souvent géographique, eh bien, ça devient plus difficile. Et donc, le politique se pose cette question-là. Dans cet avis du CCNE, il est également question de la fragilité des services d'aide à la personne. De l'institutionnalisation contrainte et du coup d'une question, est-ce que les EHPAD devront aller hors les murs? Alors je n'évoquerai pas toutes ces questions-là, mais tous ces sujets-là sont abordés dans cet avis, mettant en avant pour y répondre un travail nécessaire de réseau et de coordination, mais qui parfois est consommateur de beaucoup de temps et qui parfois aussi oublie le bon sens, le pragmatisme et ce qu'est l'essentiel, c'est-à-dire l'humain. Avec beaucoup un désir de bonne volonté d'obtenir de meilleurs résultats, parfois on s'enlise un peu dans des concepts qui nous éloignent du quotidien. Alors, au Sénat, dans tout ça, le Sénat fait la loi, il contrôle aussi l'action du gouvernement. Deux lois importantes ont été votées lors du mandat précédent, lors du quinquennat précédent, c'est la loi d'adaptation de la société au vieillissement, fin 2015, et la loi santé en 2016. Et ces deux textes, évidemment, ont impacté les politiques départementales. Pour ce qui est du présent et des mois à venir, des textes devraient nous étaient annoncés, en tout cas. Une loi sur santé et bioéthique, une loi sur les retraites, ça posera le courage de l'action politique dans les mois à venir, et une loi sur la dépendance fin 2019. Je ne sais pas si la ministre, les ministres auront les moyens de présenter ces projets de loi, au-delà du contexte et du climat actuel. Les annonces du président de la République pour répondre aux attentes des Gilets jaunes coûtent clairement et ont impacté le financement, notamment le financement de la sécurité sociale. Je sais que la ministre des Solidarités et de la Santé s'interrogeait si elle aurait les moyens de mener à bien son projet de loi sur la dépendance, alors même qu'elle a lancé en octobre dernier la concertation sur la perte d'autonomie liée à l'âge, souhaitant relever le défi du vieillissement à court et moyen terme. Donc ça, ce sont des questions, je n'ai pas les réponses, mais le contexte politique fait que le Sénat sera peut-être ou pas amené à travailler sur ces questions-là. Faire face à la réalité du vieillissement démographique, c'est une évidence. Il s'accompagne, et cela a été dit lors d'une intervention précédente, sur une diminution des naissances, une baisse de la natalité. Moi, je vais vous donner deux éléments. En Charente-Maritime, en 2009, et pardonnez-moi de parler de la Charente-Maritime, c'est quand même le département que je connais le mieux, 2009, un peu plus de 6400 naissances dans l'année. 2017, nous sommes à 5400. C'est-à-dire, simplement en comparant deux années, il y a 1000 naissances en moins. C'est énorme. En pourcentage, vous faites vite le calcul. Et donc ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant, ça renvoie aussi, et ça a été dit tout à l'heure, quelle politique familiale pour notre pays. On a amené des aides, on a apporté des financements, mais qu'est-ce qu'on attend d'une politique familiale en France aujourd'hui? Quels moyens on est prêt à y consacrer, mais surtout, qu'est-ce qu'on en attend? Deuxième chiffre, c'est que l'âge moyen pour la femme pour son premier enfant, c'est plus de 30 ans, 30,6 ans. Quand vous avez votre premier enfant à environ 30 ans, il est évident que vous en avez rarement 5. Donc un sujet vraiment, mais ça a été pointé tout à l'heure quand on a parlé démographie et pyramide des âges. La semaine prochaine, néanmoins, au Sénat, il y aura un débat sur la solidarité intergénérationnelle. J'aurai l'occasion d'intervenir pour parler d'un mode d'accueil des personnes vieillissantes, comment on peut les prendre en charge. Repenser la société de l'après-travail, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de plus en plus de jeunes retraités travaillent, reprennent une activité. Parce qu'ils ont un savoir-faire, parce qu'ils sont utiles dans l'entreprise, y compris dans le petit village que j'habite où nous sommes entourés de vignes qui produisent le cognac, parce qu'ils savent tailler et qu'ils n'ont pas peur d'aller tirer les bois même quand il fait froid. Certainement, évidemment, pour faire un petit pécule, mais se constituer un complément de retraite, parce que les retraites en milieu rural ne sont pas forcément très élevées, et parce qu'ils ont surtout un savoir-faire, parce qu'ils ont ce savoir-faire qu'il est parfois difficile de transmettre, plus compliqué pour certaines générations de l'apprendre. Relever l'âge de la retraite... C'est vous, monsieur, tout à l'heure qui le disait, je crois, en disant que ça serait difficile, il faudrait être très courageux. Mais néanmoins, je pense que ça serait indispensable, au risque de vous choquer. Lors des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a quelques semaines, c'était mi-novembre, avant le 17 novembre, le Sénat, dans sa grande sagesse, alors je ne sais pas si le fait d'avoir une moyenne d'âge inférieure à ce qu'elle était il y a quelques années et d'avoir quelques femmes, si le Sénat sera moins sage aujourd'hui et demain, j'ose espérer qu'il le sera, qu'il le restera. En tout cas, le Sénat avait souhaité, bien conscient des problèmes actuels, relever l'indexation des pensions, retraites et prestations à la hauteur de l'inflation. Et en contrepartie, parce qu'il fallait que ce projet de financement de la sécurité sociale soit équilibré, avait proposé de reculer l'âge de la retraite à 63 ans. C'était courageux de notre part, peut-être, en tout cas ça n'a pas été retenu dans le texte à la fin, mais on voit bien que l'indexation des pensions et retraites à 0,3% a provoqué quand même un vent de colère et que derrière, il y a eu un impact politique au titre de la CSG. Mais cette question, on ne peut pas la laisser de côté et il faudra, ça renvoie au courage politique. Alors, une politique départementale, pourquoi je vous parle de cela? Parce que tout simplement, la décentralisation a fait que les conseils départementaux ont pour première mission l'action sociale. Et que dans cette action sociale, vous avez la politique d'aide en faveur des personnes âgées, pardonnez-moi d'employer le terme, professeur, en faveur des personnes handicapées, en faveur de l'enfance et de la famille, la politique de l'insertion. Le département paye le revenu de solidarité active, comme le département paye l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, comme le département paye la prestation de compensation du handicap. Donc, une politique sociale qui est le cœur de métier, la mission première en tout cas, des départements. Du coup, nombre de départements ont souhaité, je pense que c'est une bonne chose, élaborer des schémas départementaux qui sont des outils de réflexion et des outils d'action en faveur de politiques, et notamment de politiques sociales, et notamment de politiques en faveur des personnes âgées. J'ai eu l'occasion de porter un schéma départemental en faveur des personnes âgées sur la période 2010-2016. Sur une période 2013-2017, un schéma en faveur des personnes handicapées, et je dirais peut-être un petit mot sur les personnes handicapées vieillissantes, parce que c'est un vrai sujet dans les départements. Et puis, avec ces deux schémas, nous avons fait en sorte que le schéma suivant soit un schéma départemental de l'autonomie. Parce qu'il y a des points communs entre les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes adultes handicapées, et que par un souci de cohérence, et parce que les politiques nationales rapprochent ces deux publics, le département de la Charente-Maritime a élaboré un schéma départemental en faveur de l'autonomie. Et ce schéma, nous ne l'avons pas abordé qu'en place d'établissement. Nombre de places accueillant des personnes âgées, nombre de places d'EHPAD, nombre de places de résidence d'autonomie, tout ce qui relève de la compétence d'un département. Nous l'avons aussi élaboré en croisant ces réflexions avec d'autres politiques départementales. Politique départementale en faveur de soutien aux associations, politique départementale en faveur du tourisme, politique départementale en faveur du sport et de la culture, politique départementale en faveur de l'habitat et du logement. Parce qu'il nous semblait évidemment qu'on ne pouvait pas parler des personnes âgées qu'en parlant place d'EHPAD. Ça n'avait pas de sens. Et que nous avons décliné notre schéma en commençant justement par le maintien de la place des seniors dans la société. Alors on parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui, mais nous l'avions également écrit dans le schéma précédent. Faire participer les personnes âgées à la vie sociale. Le département soutient également des centres sociaux. Donc, nous avons voulu vraiment élaborer un schéma en croisant la politique en faveur des personnes âgées et la politique en faveur des personnes handicapées avec nos autres politiques départementales, culture, sport, vie associative, habitat, logement, tourisme. Et j'en rajouterai une autre qui est importante, le très haut débit. L'aménagement du territoire par la fibre optique, amener le très haut débit chez chaque Charentais maritime pour permettre ce lien quand on est en EHPAD, mais aussi l'accès, nombre d'entre vous peut-être avaient une tablette, parler sur Skype avec vos enfants ou petits-enfants, maintenir ce lien et cet accès et ce stimuli, madame le professeur parlait tout à l'heure de l'intérêt des écrans, que grâce à tout cela, les personnes et les seniors puissent à la fois être connectés, être en relation avec leurs amis, leurs familles, et puis continuer à éveiller leur sens, faire travailler leur mémoire et éveiller aussi... continuer à être curieux sur les aspects culturels et autres. Donc il était important pour nous de mener ce schéma-là sur ces politiques-là. La Charente-Maritime a cette particularité, peut-être parce que c'est un département touristique, d'avoir 32% de personnes de plus de 60 ans, ce qui est bien au-delà de la moyenne nationale, puisque la moyenne nationale, nous avons eu des pourcentages tout à l'heure, mais on est autour de 25% de personnes de plus de 60 ans. Donc il est évident que c'était un enjeu important pour le département. Mais pas un enjeu important simplement pour l'APA. Un enjeu important parce que nous considérons que les personnes âgées sont une richesse pour notre département et que c'est une chance et non pas une charge très coûteuse. Parce que c'est une chance, parce que... Alors, pourquoi nous avons tant de personnes âgées? J'espère que vous connaissez tous la Charente-Maritime, que certains y sont allés en vacances, et que nous avons nombre de personnes retraitées qui viennent passer leur retraite dans notre département. D'autres viennent parce qu'ils sont originaires de Charente-Maritime. Et donc, nous voulons positiver. C'est pour ça que ce schéma, nous l'avons abordé par le prisme d'autres politiques départementales. Nous considérons vraiment que vous êtes... pour un grand nombre d'entre vous, mais et que j'espère demain, une chance pour la vie associative, pour le bénévolat, pour apporter et faire partager tout votre savoir, toute votre expérience au profit des plus jeunes générations. Le département, il a aussi en charge des collèges. Et il était évident, vous l'avez dit tout à l'heure, à travers l'école, toute cette pédagogie qu'il faut apporter, nous essayons de l'apporter aussi au niveau des collèges. Les collégiens sont une tranche d'âge qu'il est important de mobiliser, de sensibiliser sur l'intérêt du bien manger, du bien bouger, parce que ce sont des notions qui, me semble-t-il, garderont, je l'espère, toute leur vie. Je vais revenir à une politique départementale qui, me semble-t-il, pour bien vieillir, en tout cas est importante, c'est la notion de l'habitat et du logement. On parle beaucoup d'accessibilité. Je pense que dès maintenant et pour les années à venir, il sera encore plus important pour les politiques publiques de prendre en compte un habitat accessible et pour les populations d'envisager le vieillissement plutôt possible, c'est-à-dire d'envisager son habitat. Non pas simplement de se poser la question à 60 ans, est-ce que mon logement est adapté au vieillissement, mais de l'anticiper beaucoup plus en amont. Je crois qu'il y a un vrai sujet là-dessus et que les politiques publiques doivent aussi l'envisager. Il n'y a pas simplement que l'accessibilité de la ville, des bâtiments publics. Alors, il n'est pas question de mettre des douches dans tous les appartements parce que parfois des jeunes couples aiment bien une baignoire pour leurs enfants, mais la transformation du logement, rendre possible l'adaptation du logement, y compris pour les personnes les plus démunies, et il y a des politiques pour cela avec l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, il y a des leviers pour rendre que le logement et que le maintien à domicile, qui est le souhait de beaucoup de personnes qui avancent en âge, puissent être possible grâce à l'adaptation du logement. Et plus on l'anticipera, moins on aura à l'adapter, puisqu'il sera idéal, en tout cas, en n'oubliant pas qu'on peut avoir 30 ans et se casser une jambe, ou malheureusement avoir un accident et être en fauteuil pendant plusieurs mois, et c'est là où on se rend compte de tous les handicaps que peut présenter un logement aujourd'hui. Donc une politique de l'habitat et du logement, où je considère que le politique doit anticiper le plus tôt possible cette adaptation. Un département, évidemment, avec les politiques de décentralisation, ce qui est fait en Charente-Maritime est peut-être moins bien fait dans d'autres départements et peut-être mieux fait dans d'autres départements. La décentralisation a cet avantage, a des avantages et des inconvénients. Il a l'avantage, je considère, qu'on gère bien ce qu'on gère de près. Alors des élus municipaux, des élus de ville, peut-être vous diraient évidemment la même chose. L'inconvénient, c'est qu'on peut avoir une disparité si vous habitez en Charente-Maritime, si vous habitez dans les Hauts-de-Seine, si vous habitez en Lozère, évidemment, vous n'aurez peut-être pas les mêmes services et le même accès à ces services. Néanmoins, les élus en ont bien conscience, mais font avec les moyens dont ils disposent. Sur l'aspect financier, je reprends mes fiches, j'avais noté tout à l'heure quelque chose. Excusez-moi. J'étais en train de rechercher. Vous aviez dit quelque chose, madame, sur un chiffre. Oui, l'action sociale. L'action sociale sur votre projet d'assurance autonomie publique obligatoire. J'ai bien aimé. Je vais vous donner Je vais vous donner quelques chiffres. J'ai trouvé l'idée intéressante et du 1 euro par jour, 30 euros par mois. Aujourd'hui, en Charente-Maritime, la politique sociale qui est de exactement ce que nous avons voté au budget primitif pour 2019 est de 393 millions d'euros pour environ 650 000 habitants. Ça représente 600 euros par habitant. Le poids de l'action sociale en Charente-Maritime représente 600 euros par habitant. Ça fait 50 euros par mois déjà. C'est pas mal. Je vais faire une petite parenthèse. Le Sénat, c'est 5 euros par Français et par an. Voilà, je vous passe un petit message. Je dis toujours que le budget de fonctionnement du Sénat, c'est 351 millions d'euros. C'est moins que le budget de l'action sociale d'un seul département. Voilà, il y a 101 départements. Mais c'est l'action sociale qui nous intéresse là. Il paraît que c'est aussi la plus belle maison de retraite. Mais bon. Je vous rassure, je passerai ma retraite en Charente-Maritime et pas au Sénat aussi. Voilà. Donc, je trouvais intéressant votre proposition, je l'ai bien notée. Mais du coup, sur un département comme le nôtre, ça serait 50 euros. Nous payons déjà 50 euros par mois et par habitant et nous en rajouterions 30 de plus. On voit que... Non, c'est à la place de... À la place de... En plus, oui, donc c'est ça. C'est mais qui nous serait apporté. Je vais en parler à Dominique Bussereau, alors ça va peut-être l'intéresser. Mais en tout cas, on voit bien que ce qui pourrait peut-être demain ne coûter que 30 euros par mois coûte déjà aujourd'hui 50 euros par mois aux habitants de mon département. C'était ça que je voulais mettre en perspective parce que ça me paraît intéressant et donc du coup pas très décalé et peut-être plus économique. On verra. Nous verrons. Voilà. En tout cas, il est sûr que un programme de santé en entreprise est évidemment en termes de prévention, parce que là, que ça soit au niveau national, au niveau départemental, je peux vous assurer que la prévention nous paraît quelque chose d'important à défendre à tout prix. On parle toujours du coût de la prévention, mais ce n'est rien à côté de la de ce qu'il de, du coût de la maladie derrière. Où je suis plus inquiète en tant qu'élue, c'est que la prévention en entreprise, bien sûr, elle est possible. Certains chefs d'entreprise la mettent en place et en sont effectivement très satisfaits. En face, on a une médecine du travail qui commence à être un peu aux abonnés absents. Voilà, c'est ça. C'est une préoccupation des élus qui est... Pardon, c'est... Oui, voilà, c'est vraiment un sujet de préoccupation. À l'école aussi. Aujourd'hui, puisque Monsieur Pic me permet de dire à l'école aussi, c'est vrai. Souvenez-vous, je me mets dans l'eau. Nous avions une visite médicale à l'école tous les ans. Souvenez-vous, on vous mettait un petit timbre tuberculinique là. Il y a bien longtemps que ça ne se fait plus. Aujourd'hui, les seuls qui sont présents pour un bilan de santé en école maternelle, c'est le département avec son service de protection maternelle et infantile qui fait un bilan de santé pour les enfants de 4 ans en maternelle et c'est essentiellement un bilan sensoriel. Alors, on peut se dire que les enfants sont plutôt bien suivis aujourd'hui, mais je vais faire le lien avec la question de la démographie médicale. Aujourd'hui, les départements et les politiques, et j'espère que vous aurez une meilleure image des politiques, s'il vous plaît, les politiques se préoccupent de la démographie médicale parce que c'est un vrai sujet d'aménagement du territoire national. Et aujourd'hui, j'évoquais avec cet apport migratoire en Charente-Maritime de jeunes retraités qui viennent passer de belles années dans notre beau département, la préoccupation quand ils s'installent dans un village, parce que tout le monde ne va pas habiter La Rochelle ou Royan, qui sont des très jolies villes, bien évidemment, mais d'autres viennent s'installer à la campagne. Et ces nouveaux habitants s'inquiètent de deux sujets. Est-ce qu'il y a Internet et le téléphone portable? Est-ce que ça passe? Est-ce qu'il n'y a pas trop de zones blanches? Et est-ce qu'il y a un médecin? Et ce sont les deux premiers critères de choix d'installation. Pas que, mais on regardera pas s'il y a une boulangerie. Par contre, on se préoccupera de savoir s'il y a des professionnels de santé. Et permettez-moi de passer un message aussi, c'est que la loi de répartition qui concerne les pharmaciens conduit aujourd'hui à un aménagement du territoire national exemplaire en matière de présence de pharmacie. Vous avez une pharmacie à 10 minutes, un quart d'heure de chez vous. Voilà. Alors, je sais que la liberté d'installation est chère à nos amis médecins, mais que néanmoins, une loi de répartition permet au moins cet avantage-là en aménagement du territoire. Voilà. Je suis sans langue de bois sur le sujet. C'est un message. Je sais qu'il n'est pas forcément partagé, et il n'est pas partagé au Sénat, rassurez-vous, mais néanmoins, les élus et les élus ruraux ont pour eux cette vraie préoccupation. Et le département, le conseil départemental s'en préoccupe, en tout cas il s'en préoccupe en Charente-Maritime, il s'en préoccupe dans tous les départements ruraux. Les élus se cassent la tête, comment pouvons-nous faire venir des médecins dans nos départements, dans nos communes, et notamment dans nos communes rurales. Alors voilà, on ne réglera pas le sujet, mais c'est un vrai sujet de préoccupation, parce que pour continuer à vivre en bonne santé, eh bien, c'est bien de temps en temps de voir un médecin. Et si vous n'avez pas de médecin généraliste, qui est la pierre angulaire de la prise en charge médicale, on leur demande beaucoup, ça a été dit aussi, on ne peut pas tout leur demander, ce sont des gens dévoués, extrêmement généreux, mais nous avons besoin d'eux. Et ils rassurent leurs patients, et quand vous êtes rassurés, vous repartez d'un bon pied, marcher, faire des belles balades, parce que la marche est l'un des sports qu'on peut pratiquer le plus longtemps pour rester en bonne santé. En tout cas, je vous y invite. Donc vous voyez que c'est Charles de Gaulle qui disait « la politique, c'est un idéal face à une réalité ». La réalité démographique, elle vous a été présentée tout au long de cet après-midi. L'idéal... vieillir le plus longtemps possible en bonne santé, comment le politique permet l'accès à cet idéal face à la réalité, ben j'ai pas toutes les réponses, à part mon engagement, l'énergie que je peux déployer et évidemment des moyens qu'il faut mettre en face. Néanmoins, c'est pas les seuls élus qui pourront y répondre. L'optimisme, ça a été dit tout à l'heure. On voit bien que vieillir, c'est aussi une chance. Souvent, dans mon officine, ou des amis médecins me disent « Ah ben, j'ai vu un patient, il m'a dit « Oh là là, faudrait pas vieillir ». J'ai une amie qui est médecin qui dit du toc au toc « Oui, mais il faudrait pas mourir jeune ». Eh ben oui, bien sûr, vieillir est une chance. Vieillir en bonne santé est une double chance. Mais c'est effectivement... une opportunité pour la croissance économique. Vous avez tous entendu parler de la silver economy. Quel département ne rêve pas de voir se développer une silver economy? Mais sans aller jusqu'à là, et les services d'aide à domicile qui jouent un rôle extraordinaire et important et qui dont la reconnaissance en termes de rémunération est un peu compliquée, et là ça impacte directement les départements, et pour avoir largement discuté avec eux l'année dernière sur ce qu'on appelle la tarification, il faut dire que ça n'a pas été un fleuve tranquille, mais nous avons avancé. Ces services d'aide à domicile représentent des emplois non délocalisables, qui ne sont pas assez reconnus, qui demandent beaucoup d'attention, qui ne sont pas des métiers faciles, et il faudrait là aussi que le niveau national fasse en sorte que nous puissions mieux rémunérer ces personnes qui interviennent au domicile des personnes devenant dépendantes ou en tout cas ayant perdu une partie de leur autonomie. Alors je ne sais pas si j'ai déjà dépassé longtemps, c'est parfait, c'est bon. Excellent, non, je ne sais pas si excellent, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Et puis, je voudrais peut-être terminer quand même une citation et puis une remarque. À l'occasion de vœux, l'autre jour, je rencontrais un monsieur d'un certain âge et je lui demandais « Comment allez-vous ?» Et il m'a dit « Ça va pour le quart d'heure ». Alors, je connaissais pas l'expression, mais je l'ai retenue, j'ai trouvé très drôle. Il m'a dit « Oui, ça va pour l'instant, mais dans un quart d'heure, on verra ». Donc, je la partage avec vous. Et puis pour aller dans le sens de l'optimisme, parce que vraiment, je suis peut-être pas optimiste tous les jours, je crois que je suis... peut-être plus réaliste parfois, mais je veux l'être, et en tout cas, je veux pas lâcher une minute du temps qui passe, parce que le temps passe trop vite, et que chaque temps que vous pouvez passer avec ceux qui vous entourent est une chance, et il faut pas les laisser passer. J'aime bien une citation de Gérard Jugnot. Alors, vous avez vu des belles citations de philosophes, d'écrivains remarquables. Moi, je vais vous en donner une de Gérard Jugnot, parce qu'elle m'allait bien à un moment. C'est le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas forcément la pluie, mais ça permet d'avancer. Alors, continuez à avancer, continuez à rire, soyez optimistes, parce que c'est comme ça qu'on vieillit le mieux possible. Et les élus que nous sommes, avec beaucoup d'humilité, faisons en sorte de porter des politiques publiques qui ne sont certainement pas parfaites. J'ai bien entendu ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Forêt, avec beaucoup de justesse, hein, que ce n'était pas, la prise en charge n'était pas convenable, qu'on ne regardait pas forcément, que le reste à charge était important. Oui, bien sûr, nous faisons le maximum avec des textes de loi. Aujourd'hui, je suis parlementaire, je suis sénatrice, je vote ou j'amende des lois. Il y a le niveau départemental, il y a un moyen. En tout cas, je continue à croire que de vieillir est une chance. Malheureusement, évidemment, elle a un terme. Que les départements ont une responsabilité, la qualité de la bonne prise en charge des personnes, le bien-être. J'ose croire qu'entre l'EHPAD hors les murs, moi j'aimerais bien défendre un modèle qui est le modèle de la maison d'accueil familiale regroupée. Je parle de ce qui est de la compétence des départements, je ne parle pas des résidences autonomie, enfin les résidences autonomie sont de notre compétence, mais des résidences seniors qui sont souvent encore avant la résidence autonomie. Mais l'accueil familial qui est peut-être moins traumatisant que de rentrer en établissement, en EHPAD, qui sont aujourd'hui devenus, qui ressemblent parfois plus à l'hôpital qu'à une maison de retraite, comme on a pu la connaître autrefois. Parce que l'âge d'entrée en EHPAD a été repoussé à plus de, autour de 83, 84 ans aujourd'hui en moyenne, et que la maison d'accueil familial pourrait permettre peut-être un accompagnement familial, comme son nom l'indique, dans un logement adapté, et peut-être moins traumatisant qu'une entrée en établissement qui est parfois un peu triste. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir convié et je suis à votre disposition pour des questions. J'ai essayé de... Je suis pas une spécialiste de ces conférences, donc je vous ai livré un certain nombre d'actions que je porte, en tout cas avec humilité, parce que je sais que le chantier est important.
Merci beaucoup et c'est l'occasion pour nous de dire à quel point nous savons, surtout en ce moment, que les élus de la République se donnent beaucoup de mal et vous en avez apporté la preuve, madame, et nous vous en remercions. Il faut le dire et vous le vivez intensément. Mesdames et messieurs, donc nous avons du temps, presque 40 minutes, pour aborder l'ensemble des questions que vous souhaitez traiter. Tous les intervenants sont autour de cette table. Madame Forêt, qui vient de nous rejoindre, et le professeur Léridon. Ce que je vous suggère, c'est que nous avons eu 4 exposés. Bien entendu, les deux premiers ayant déjà donné lieu à des questions, vous serez peut-être tenté de commencer par les deux derniers, mais l'idée est que vous puissiez non seulement poser des questions, mais le cas échéant, à partir de ce que vous avez entendu, que vous réagissiez et que vous apportiez, si nécessaire, le témoignage de ce que vous avez vécu et de ce que fait en vous, provoque en vous, les riches, très riches observations qui ont été faites depuis le début de cet après-midi. Donc vous avez la parole, le micro va circuler, et voilà, première intervenant.
D'abord, une toute petite question de précision. Qu'est-ce que vous appelez, madame, une maison d'accueil familial, surtout pour les personnes âgées?
Alors, l'accueil familial, c'est encadré par le Code de l'action sociale et des familles. C'est de la compétence du président du conseil départemental qui accorde un agrément à une famille d'accueil pour accueillir chez elle une, deux ou trois personnes, qu'elles soient âgées ou handicapées. Ça, c'est quelque chose qui est bien défini dans le Code de l'action sociale et des familles. Aujourd'hui, en Charente-Maritime, c'est un dispositif, l'accueil familial, qui est assez développé. Nous avons environ 170 familles d'accueil, ce qui représente à peu près un peu plus de 300 places d'accueil. Mais souvent, ce sont des gens qui avaient une grande maison, les enfants sont partis, et ils se disent, tiens, si on mettait à profit le fait d'avoir une grande maison pour accueillir chez nous des personnes vieillissantes ou des personnes handicapées, puisqu'il y a également l'accueil familial en faveur des personnes handicapées. L'accueil familial regroupé, le principe, c'est de construire deux maisons. Alors c'est quelque chose qui existe déjà, hein, mais dans lequel on a cherché à impliquer les collectivités sur un modèle économique qui était fragile, et j'aimerais le rendre plus accessible et modélisable. C'est deux maisons que vous construisez et qui sont évidemment adaptées au sens du vieillissement, c'est-à-dire qu'avec une douche à l'italienne, une chambre pour chaque personne accueillie, et la famille d'accueil qui habite au-dessus, deux familles et deux maisons regroupées, liées par un studio qui permet que l'accueillant familial soit remplacé de temps en temps, ne serait-ce que quand il prend ses vacances. Cet équilibre, ce modèle-là, sachant que l'accueillant familial ne peut aujourd'hui être agréé que pour 3 personnes, exceptionnellement pour 4 s'il accueille un couple. Ça, c'est le code, ce sont les règles. Moi, j'aimerais, à titre personnel, et je vais travailler en ce sens-là au Sénat, pour que, en cas de maison d'accueil familiale regroupée, puisque nous avons 2 familles d'accueil qui peuvent se soutenir, on puisse avoir un agrément pour 4 personnes âgées ou 4 personnes handicapées. 4 personnes handicapées, ça peut être lourd et les besoins sont peut-être un peu moins importants, mais 4 personnes âgées, de façon à rendre le modèle économiquement plus supportable. L'objectif étant que le coût pour la personne qui est accueillie soit évidemment moindre qu'un coût en établissement, et ça rejoint vos remarques tout à l'heure sur le reste à charge qui était important, en travaillant avec un bailleur social qui sait construire, qui permettra à la personne âgée de bénéficier de l'APL, etc., etc. Donc l'objectif, c'est de garder un accueil familial, puisqu'au maximum nous aurions 4 personnes accueillies dans une maison, et quelque chose qui soit moins cher qu'un établissement EHPAD comme vous le connaissez aujourd'hui.
Y a-t-il d'autres questions, Madame?
J'avais entendu dire, dans le sens que vous nous avez dit là maintenant, que dans ces maisons, il y aurait un souci de mélanger, par exemple, des personnes âgées et des enfants, ou des enfants petits, enfin, comme ça, intergénérationnel.
Alors, La famille d'accueil, effectivement, ça peut être un jeune couple avec des enfants, mais est-ce que c'est un souci d'avoir des enfants? Alors, c'est rarement le cas, effectivement. C'est plutôt l'accueillant familial est souvent une dame d'une cinquantaine d'années. Schématiquement, c'est un petit peu ça. Mais néanmoins, est-ce que ça doit être un problème que d'avoir des jeunes enfants dans une maison d'accueil familial? Alors, peut-être pas trop jeunes, mais voilà. Je pense que c'est au cas par cas. Nous avons en Charente-Maritime quelques familles qui sont agréées, qui exercent chez eux, hein, ils sont à leur domicile, et qui ont des enfants qui ont moins de 10 ans. Alors, c'est pas le plus grand nombre de nos accueillants familiaux, mais ça peut arriver. Donc, j'allais dire, c'est un petit peu au cas par cas et la façon dont la famille d'accueil aborde. Après, effectivement, ça peut faire du bruit, les personnes âgées peuvent plus ou moins supporter le bruit, mais on est typiquement dans l'intergénérationnel, donc je crois que là, il n'y a pas de règle. C'est vraiment en fonction de l'âge des enfants et de la qualité de la famille d'accueil. Mais ça peut être un frein, bien sûr.
Pierre.
Oui, merci beaucoup, madame. Je voulais vous poser la question concernant les associations. Il y a un nombre absolument considérable d'associations. D'ailleurs, il y a des personnes à la retraite, âgées, qui sont impliquées dans les associations, et vraiment, c'est très bien. D'un autre côté, les associations souffrent de manque de crédit. Alors, est-ce que au niveau départemental, au niveau régional, au niveau communal, il y a un effort qui est dans ce sens-là, pour notamment aider les gens âgés à se regrouper, à faire des voyages, etc., etc. Ça nécessite des fonds. Je voulais savoir s'il y avait une politique programmée pour voir dans le petit village dans lequel je vais en vacances. Il y a plein de générosité, mais il n'y a pas de planification, entre autres parce qu'il n'y a pas de sans doute de crédit pour pouvoir organiser cela correctement.
Vous savez, aujourd'hui, les collectivités, au titre d'un effort en faveur du remboursement de notre dette, qui atteint pratiquement 100% du produit intérieur brut, hein, du PIB, fait que les collectivités, les communes, mais les communautés de communes, les départements, les régions, ont vu leur dotation baisser. pendant 4 années. Et effectivement, ça a eu un impact important sur leur budget, alors qu'ils avaient parfois des investissements engagés. Et qu'à partir de là, j'allais dire, c'est un peu comme le poste culture au niveau des politiques nationales. Dès qu'on commence à avoir des budgets, eh bien, c'est la culture qui en pâtit. Et effectivement, ce sont les... Alors, ça dépend des communes, hein, mais les subventions aux associations peuvent être diminuées. Mais tout dépend des communes, tout dépend des intercommunalités, tout dépend du niveau de richesse de la commune. Il n'y a pas une commune qui fera pareil. Les élus baissent rarement les subventions de Gaieté de cœur, comme ils augmentent rarement les impôts de Gaieté de cœur. S'ils le font, c'est qu'ils y sont contraints. Mais vous avez des belles collectivités qui vont afficher une volonté politique de maintenir leurs subventions aux associations qui animent la vie locale. Mais s'ils le font, c'est qu'ils ont pu en dégager les moyens. Donc là, il y a une grande inégalité aujourd'hui au niveau des collectivités. Ce que je trouve injuste, je vais faire quand même une petite parenthèse, c'est que pendant 4 ans, là, on a demandé un gros effort aux collectivités. C'est normal, de toute façon, il faut dans l'état actuel des choses et de la dette du pays, il faut que tout le monde fasse des efforts, le niveau national en premier et les collectivités. Il faut savoir que les collectivités ont contribué au redressement des comptes publics beaucoup plus que leur part de responsabilité dans la dette du pays. Voilà. On a demandé beaucoup aux communes, aux départements, aux régions, c'est une réalité, c'est factuel, que leur responsabilité dans la part de la dette, tout simplement parce qu'une commune, quand elle vote un budget, doit voter un budget à l'équilibre. Le département, pareil, le conseil régional, pareil, il n'y a que l'État qui ne vote pas son budget en équilibre. Eh oui. Donc, ça, c'est vraiment du cas par cas. Peut-être que dans votre petite commune, si la commune a les moyens, elle aura maintenu ses subventions aux associations, mais effectivement, les associations voient leurs subventions diminuer en règle générale, et elles ont une double peine pour celles qui avaient des salariés. Alors, il faut déjà des associations un petit peu structurées. Souvent, elles avaient des salariés qui bénéficiaient de contrats aidés. La suppression des contrats aidés a encore fortement pénalisé ces associations et les met en difficulté financière, c'est clair.
Oui, sur les politiques territoriales, avec le Gérontopole des Pays de la Loire, on a mené une réflexion prenant en compte ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la rupture démographique est en 2027. C'est vrai qu'on est dans une période qui est tellement difficile qu'on est sur des budgets annuels et sur des répartitions de tâches entre le sanitaire d'un côté, qui est porté par l'ARS, de l'autre côté les départements. La loi SV a renforcé les uns, désengagé un peu les autres. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue que le vrai rendez-vous est dans 10 ans. Et nous avons construit un système de diagnostic territorial prospectif qui permet de prendre en compte la situation d'un territoire et d'extrapoler en fait sa réalité à 10 ans pour voir quel est le visage populationnel et culturel de la population à 10 ans. Et en ce moment, on est en train de le mettre comme un volet des diagnostics qui sont imposés, diagnostics environnement, diagnostics les PLH, les plans locaux de l'habitat. Et on se rend compte qu'en fait, ce qui était impossible à penser quand on était sur une annualité des difficultés, devient finalement, enfin il y a du possible qui s'ouvre, parce qu'en se projetant à 10 ans, des questions en fait peuvent trouver des solutions qui peuvent même être quelquefois inattendues. Vous évoquiez des hébergements familiaux. Il y a aussi, par exemple, de nouvelles résidences-services avec des modèles économiques tout à fait intéressants et des packs de services que finalement la résidence autonomie, la loi SV, empêche de faire. Qu'est-ce que vous pensez d'une possibilité au regard de la loi qui va peut-être être votée cette année de se mettre dans une disposition plutôt prospective que des combats que l'on a vus lors de la loi SV qui, à mon avis, ont un peu empêché la réflexion structurante.
À vous peut-être de dire ce qu'est la loi SV.
L'adaptation
société au vieillissement.
La loi d'adaptation de la société au vieillissement que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, très rapidement, qui dans le décret d'application est paru en 2015, donc il y a il y a tout juste 3 ans. Les débats lors de la loi d'adaptation de la société au vieillissement ont aussi tourné malgré tout sur le fait que le compte n'y était pas. Le compte n'était pas sur le plan financier. C'est-à-dire qu'il y avait des bonnes intentions. D'abord, cette loi était essentiellement tournée vers le domicile. Alors, elle avait l'intérêt, c'est de mettre en avant un sujet qui a été évoqué cet après-midi, c'est-à-dire la prise en compte des aidants. Mais néanmoins, le compte n'y était pas. Et quand le compte n'y est pas au niveau de l'État, on sait que forcément, il impacte fortement les départements. Et quand vous savez que les départements qui payent les allocations individuelles de solidarité, que sont la prestation de compensation du handicap, l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est-à-dire l'APA, et le RSA, que les départements ne sont pas bien remboursés, en tout cas, comme ils devraient l'être par l'État, effectivement, ça interroge tout le monde. Par contre, sur l'aspect pluriannuel, et c'est le sens des schémas départementaux, alors voilà celui de la Charente-Maritime, mais l'intérêt d'un travail sur un schéma, en tout cas pour l'élu que je suis, c'est d'abord de se poser et de regarder la politique qui est menée à l'instant T dans son département. C'est évidemment d'échanger à travers des réunions, des groupes de travail, etc., avec des acteurs qui ne dépendent pas du département, mais avec qui le département a l'habitude de travailler. Et puis, c'est de se faire accompagner par un cabinet extérieur qui va également nous aider à rédiger cela. Mais c'est surtout regarder ce qui se fait à l'instant T dans un département, évaluer les besoins, faire de la prospective et se dire dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui se passera dans notre département. Et du coup, à partir de là, en fonction des moyens que le département et des règles évidemment de financement au niveau national, mais de se dire avec les moyens que j'ai et que je suis prêt à mettre, qu'est-ce que je mets en action sur tel ou tel sujet, et notamment sur le sujet de la politique en faveur des personnes âgées. Alors, Le département a travaillé, c'est une attente hein, des acteurs dans le monde de l'action sociale, c'est les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, c'est-à-dire de donner une lisibilité aux acteurs qui interviennent dans le cadre de politique publique et notamment de politique sociale, en disant voilà, on signe un contrat pour 3 ans, pour 5 ans, et voilà les moyens pour les 3 années, les 5 années à venir que le département va mettre pour vous accompagner, pour vous permettre de mettre en place ces politiques. Donc c'est un outil, et on voit bien, alors pour les spécialistes, les EHPAD avaient des conventions tripartites entre l'établissement, l'agence régionale de santé et le département. Maintenant on parle de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Et je pense que cette pluriannualité-là, elle est indispensable, sauf qu'au niveau national, on a un projet une loi de financement de la sécurité sociale pour une année, on a une loi de finances pour une année, et on ne voit pas au-delà. Et cette contradiction. En tout cas, les collectivités locales, du coup, les départements prennent un risque en s'engageant pour 3 ou 5 ans. Alors un risque mesuré, bien évidemment. Mais sans savoir ce que la loi va être demain et ce que le budget national votera. Et j'évoquais la loi santé qui date de 2016. Et on voit bien que Madame Buzyn aujourd'hui a envie d'une nouvelle loi santé et bioéthique pour 2019. C'est-à-dire que ça fait à peine 3 ans qu'une loi est votée, qu'on va revenir avec une nouvelle loi. Et puis le chantier de la dépendance, ça fait 10 ans, voire plus, qu'on en parle. Du 5e risque, bien sûr, la 5e branche de l'assurance maladie. Et là, bien sûr, quand nombre de gouvernements s'y sont frottés, la démographie est là. Certainement, ils y ont mis en face un coup. Le temps politique est pour le coup, le quinquennat n'est pas une réussite, hein, parce que le temps politique est long, et on voit bien que le quinquennat ne nous arrange pas sur ces sujets-là. Mais la contradiction, c'est ça aujourd'hui. Et c'est cette difficulté, cette non-visibilité pour les départements qui, encore une fois, portent ces politiques-là, les déclinent en tout cas pour le compte du national, eh bien, ne voient pas. Et que nos partenaires, que les EHPAD, que tous les prestataires qui interviennent veulent avoir de la lisibilité. Je vous parlais de la politique en faveur des services d'aide à domicile que j'avais conduite l'année dernière, quand j'étais encore en fonction de vice-présidente avec tous ces services-là, eh bien, nous leur avons proposé pour un certain nombre de signer un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ça veut dire que le département s'engage sur certaines bases pour les soutenir, parce que sans cela, on ne pourra pas y arriver. Donc, il y a un vrai engagement. Alors, on ne s'engage pas au-delà de 3 ans, 5 ans, bien évidemment, mais ces schémas-là permettent de... Enfin, en tout cas, c'est à l'occasion de ce schéma-là que nous interrogeons sur ce qu'est la démographie demain et quelle politique devons-nous porter.
Je crois qu'Henri Léridon peut aussi
s'exprimer. Oui, là, c'est pour ajouter simplement à la complexité du problème. Les projections démographiques sont beaucoup plus difficiles au niveau départemental qu'au niveau national. Au niveau national, en gros, la natalité et la mortalité suffisent. On rajoute un peu de migration après quand même, mais c'est relativement minoritaire. Alors qu'au niveau plus local, et notamment du département, à ces paramètres-là, il faut ajouter la migration, c'est-à-dire qu'est-ce qui fera que des gens vont rester ou vont quitter le département parce qu'il n'y a pas assez d'emplois à cet endroit-là, ils veulent aller ailleurs. Qu'est-ce qui fait que les gens vont revenir parce qu'en effet, après leur vie active, ils ont envie de retourner là ou bien ils choisissent de s'implanter là. Ça, c'est une chose beaucoup plus difficile à prévoir. Et alors en même temps, c'est très très bien ce que vous faites, et au moins jusqu'à 3-5 ans, mais effectivement à 10 ans déjà, ça devient beaucoup plus sportif. Et ça, c'est inévitable.
Il y a une question juste là, avant, et puis l'autre au fond, après.
Oui, 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 oui.
Oui, merci de ce que vous avez dit à propos des aidants, mais je voudrais attirer l'attention sur un phénomène qui est curieux aujourd'hui et qui va aller en se développant. Avec l'allongement de la durée de vie, il y a de plus en plus de centenaires. Et aujourd'hui, les aidants de ces centenaires, c'est des personnes de 80 ans ou plus. Alors, je ne sais pas, je souhaite un commentaire à ce sujet. Je n'ai pas de solution ni de question vraie, mais un commentaire.
Qu'est-ce que, Madame Forêt voulait peut-être répondre.
Je crois qu'il faut espérer, et d'ailleurs c'est le cas à l'heure actuelle, que les personnes de 80 ans seront bien et qu'elles pourront s'occuper des personnes de plus de 100 ans. Et c'est relativement le cas à l'heure actuelle pour la majorité d'entre elles. C'est toujours pareil. Il y a un certain nombre de personnes de plus de 80 ans qui sont remarquables. Moi, je dis souvent qu'il faut regarder Clint Eastwood. Clint Eastwood, il a 88 ans à l'heure actuelle.
Et Jane Fonda.
Jane Fonda est plus jeune.
Mais c'est pas
oui, 82, oui. Jane Fonda, 82. Moi, je regarde Clint et...
juste répartition des...
Non, mais c'est normal que...
c'est rassurant.
Cela dit, bon, il a plein de défauts, Clint. Il est pour Trump, etc. Il est pour les armes, mais c'est un splendide... Oui, c'est un splendide cinéaste. Et il continue à tourner à l'heure actuelle. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un problème, dans la mesure où, s'il y a une entente... On parlait beaucoup de famille tout à l'heure. La personne de 80 ans, elle a des enfants de 60, qui eux-mêmes ont des enfants de 40, etc., etc. Et la famille, elle est très vivace en France. Il ne faut pas croire que les familles sont abandonnantes. Nous, ça, on le voit comme médecin. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas, outre mesure.
Voilà, il y a d'autres questions. Je fais juste une transition personnelle. Ma vieille tante, qui a 100 ans, qui va fêter ses 100 ans, chaque fois qu'elle le voit, me dit « Je suis trop jeune pour être vieille ».
Une question à M. Béruc. Vous nous avez dit qu'effectivement, à partir du moment où on ne travaillait plus, dans la société, on paraissait donc exclu avec un certain nombre d'autres personnes. Mais est-ce que vous avez des possibilités ou des pistes pour changer cette image? On sait que les personnes âgées, dont beaucoup sont ici par exemple, sont ceux qui occupent pratiquement tous les musées, tous les théâtres, etc. Donc comment les replacer dans la société en sachant qu'ils ont une activité, on parlait de silver economy tout à l'heure, comment les replacer dans la société par rapport à ce que vous dites?
Oui, c'est une question très importante et une question qui évidemment va vers d'autres terres. Alors, il y a... La première, c'est la liberté de continuer à travailler. C'est-à-dire que un âge légal de départ à la retraite, aujourd'hui, ça sert aux personnes qui ont des pensions à savoir quand est-ce qu'elles changent de régime. Mais de plus en plus, on est déconnecté entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge effectif de départ. Le professeur Forêt a montré les taux d'employabilité qui étaient très bas, qui aujourd'hui sont un peu améliorés à 49% avec des lois qui ont été faites sous Hollande, mais on reste quand même avec une employabilité faible. Donc il faut, dans un premier temps, c'est lever tous les freins juridiques qui empêchent aux personnes de participer à la vie. Par exemple, à 70 ans, on n'a plus le droit de faire un emprunt.
Ben ça, c'est plus la réalité d'aujourd'hui. Il y avait la même chose pour les personnes qui avaient été traitées pour un cancer, et c'était à l'époque de Chirac que ça s'est fait, et on a levé l'obstacle juridique. Il n'y a aucune raison que cet obstacle persiste. Et là, je ne dis simplement que ce fait-là, mais il y a des quantités de petits freins qui sont mis et qu'on peut tout à fait lever. Parce que c'est vrai que dans certaines grandes entreprises, à partir de 45 ans, on est vieux, mais on n'est pas tous que dans des grandes entreprises. D'autre part, il y a des aspects juridiques autour de l'auto-entrepreneur qui sont des freins pour les personnes âgées. Il n'y a aucune raison, parce que c'est tout à fait adapté. D'autre part, vous dites en effet que dans les musées, l'activité culturelle, etc., en fait, c'est surtout des personnes de plus de 60 ans. Mais quand vous êtes dans le milieu des affaires culturelles, eh bien, ces personnes n'existent pas. Et donc, quand on veut faire une politique culturelle au niveau d'un territoire, et qu'on voit les responsables, ils ouvrent des grands yeux ronds. De la même manière pour les activités sportives, les équipements sportifs en France, à 50%, sont utilisés par des gens de plus de 60 ans. Mais quand on parle d'équipements sportifs, on pense évidemment aux enfants d'une école, etc. Et donc là, alors ça commence à venir, parce qu'il y a eu, un texte de février 2016 ou 17 qui a créé le coach sportif, alors il commence à s'y intéresser. Mais il y a ces politiques-là qu'il faut complètement revisiter au niveau des collectivités territoriales et donc faire de l'enseignement pour se rendre compte de ça. Il y a autre chose qui est un gros dossier. Le service non salarié des personnes plus de 60 ans représente à peu près 30 à 35 milliards d'euros de production non salariée. Et là, évidemment, on met le doigt dans un gros mot qui s'appelle bénévolat. Parce que bénévolat en France égale empêcher l'emploi. Mais il y a dans d'autres pays, comme au Canada, quand on est bénévole, on a des avantages sociaux sans salaire pour être rétribué. Et on, voilà, quand vous allez dans un hôpital au Canada, la secrétaire qui vous accueille, c'est une bénévole. Donc, il faut qu'on revisite la question de la place dans la société qui ne soit pas uniquement dans le cadre du travail salarié. Mais vous voyez, on est en train de lever des gros dossiers, parce que là, on met tout le monde dans la rue si les bénévoles ont des avantages sociaux, etc., etc. Mais en même temps, on voit bien que déconnecter l'inclusion, l'appartenance à la société au travail salarié, ça passe en effet par un nouveau regard, avec, je reprendrai l'expression d'Alexandre Dejour, qui est l'inventeur du burn-out, qui est un grand médecin du travail, et qui distingue emploi et travail. L'emploi, c'est le contrat qui fait que contre le temps que je donne, j'ai de l'argent. Le travail, c'est ce que j'apporte à la société qui me permet, moi, de vivre et d'être heureux aussi. Et on a trop, dans une réflexion de dialogue social qui était nécessaire et très en proue après les Grenelles de 68, on a trop résumé en France l'emploi, le travail à l'emploi. Et quand on dit, évidemment, quelqu'un qui a un emploi qui est très fatigant parce que c'est un travail de force, c'est sûr que d'avoir une date de départ qui soit raisonnable, bien sûr. Mais pour ceux qui ont un travail intellectuel ou un travail de service ou etc., qui ne nécessite pas des efforts physiques particuliers, on voit bien qu'il faut déconnecter ce qui va être l'emploi et qui va appartenir à une règle de répartition de l'emploi et de la masse, etc., et du travail qui est ce que l'on apporte avec notre expérience à la société. C'est quelques pistes, hein. C'est un gros dossier.
J'aurais une question que j'aimerais poser au professeur Berru qui doit partir tôt. C'est une question de la frontière de la médecine, de la philosophie, puisque vous avez conjoint les deux disciplines. La philosophie, c'est pas simplement une discipline qui consiste à s'interroger, à manier des concepts, mais dans l'histoire, ça a été aussi une discipline de vie. L'art de bien vivre, c'était ça aussi, ça faisait partie de la philosophie. Est-ce que du coup, dans votre exercice médical, vous voyez la nécessité, ou bien vous l'employez vous-même, de recourir à la philosophie, ou du moins de la proposer, comme un art de vivre? C'était un art de réfléchir, mais aussi un art de vivre. On pourrait dire, dans l'histoire, une discipline de la pensée et de l'action. Alors, est-ce que vous êtes au sens où Kant disait que chacun, en ce sens-là, est médecin de soi-même et qu'il ne doit pas renoncer à être, en ce sens-là, médecin de lui-même? Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là, puisque vous conjoignez les deux disciplines?
Oui, alors, donc il n'y a pas la philosophie, mais il y a les philosophies.
Et à la suite de... Je pense que pour parler de ça, l'auteur qu'on a envie de citer, c'est Philippe Adot, qui a montré que vie, discipline de vie appartenait à la société, à la philosophie de l'époque post-Aristote, Plotin, les stoïciens, et que à l'époque, en fait, c'était une discipline spirituelle de faire de la philosophie. Puis après, on a une autre philosophie qu'on va commencer avec la révolution du XIIIe siècle, la revisite, etc. Et puis après, la philosophie des systèmes du XIXe, qui était des philosophies explicatives et qui était plutôt dans l'art de vivre. Donc vous faites allusion à cette partie de la philosophie, et qui aujourd'hui est fortement portée, et à juste titre, à travers tout ce que l'on parle sur le mindfulness, c'est-à-dire le travail en pleine conscience, l'auto-hypnose, la relaxation, la concentration, la méditation, l'expression corporelle. Et on a mené, par exemple, dans l'hôpital où j'ai la chance de travailler, des groupes de travail avec des patients âgés sur l'expression corporelle, sur la peinture, sur l'accès à l'art, c'est-à-dire à toutes les médiations non-verbales qui vont permettre de se sentir vivre. Et ça, ça a vraiment le vent en poupe. On peut citer, par exemple, dans l'école de Sainte-Anne à Paris, Christophe André et consorts. Voilà. Et ça, c'est vrai que pour les personnes âgées, c'est tout à fait adapté. Aujourd'hui, comme l'a rapporté le professeur Forêt, pour les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, les médicaments symptomatiques qui pourtant nous aidaient beaucoup sont déremboursés. Et on est en train de renforcer, en fait, cette idée. On a créé, encore une fois, avec le gérontopole des Pays de la Loire, un regroupement de professionnels sur des médiations non verbales. Ils sont une trentaine. Et ça s'appelle le groupe Iris. Et ils vont dans des maisons de retraite en faisant des animations. Et on change de médiation d'une semaine sur l'autre. Parce que sinon, vous avez un coach sportif, vous y avez droit pendant un an. Et puis si vous avez quelqu'un qui vous fait faire de la pâte à modeler, vous avez un an de pâte à modeler. Donc là, on peut faire du pipeau une semaine, du chant choral la semaine d'après, et de la pâte à modeler le troisième. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, ça rejoint tout à fait la plateforme des fonctions exécutives dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire tout à l'heure, je vous en ai parlé comme l'afférence vers le social, la psychologie et le somatique, mais c'est aussi un lieu qui reçoit une afférence, qui est la relation à l'autre, qui est l'émotion, l'affectivité, et dans le monde professionnel qu'on appelle l'empathie. Par exemple, une personne âgée qui dit pas grand-chose toute la journée, qui regarde la télé ou qui fait semblant, si la petite fille vient lui rendre visite, là, tout d'un coup, elle s'éveille et elle devient compétente sur le plan cognitif pendant plusieurs heures. Parce que, tout simplement, il y a eu une émotion. C'est ce qu'on appelle la stimulation cognitive. Donc, comme on peut pas multiplier les petites filles, eh bien, on fait des animations qui vont permettre de réveiller le général en chef, si j'ose dire.
Là-bas, il y a trois questions.
Oui, moi, je ne sais pas si la question peut vraiment être posée au Centre Sèvres, mais enfin, il reste qu'en France, il est illégal de choisir de mourir. Et que ce qui se pratique en Belgique ou en Suisse, en France, est illégal. Mais pourquoi ?
Je pense que votre question, alors je prends le micro, mais ça ne serait plus tout à fait comme ça, il faut y aller. Je pense que votre question nous situe dans le permis le défendu, et donc ne laisse pas la place à une ouverture éthique, l'éthique étant la réflexion anxieuse sur le bien-faire. Et en fait, en pratique et en gériatrie, on n'est pas dans le permis le défendu. On est dans des chemins de vie, et tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas de vieillissement normal, on a chacun notre vie particulière, on est sur des chemins de vie, avec des étapes de vie. Quelquefois, on voit le vieillissement d'une manière fixe. Je veux être chez moi, je veux pas aller en EHPAD, je veux être ci. Mais c'est la même personne qui un jour était à domicile, qui un autre jour va être en accueil de jour, qui un jour va être en EHPAD, etc. On est sur une évolution, toujours. Puisqu'on est dans la vie. Et dans ces moments de vie, il y a des moments où on voit plus trop pourquoi on est là. Et ça, ce sont des dimensions, quand elles sont prises en compte, dans leur réalité, leur complexité, leur souffrance, l'appui que l'on peut faire, eh bien ça nous permet de discerner dans ce ressenti de vie,
ce qui appartient à l'ordre de l'élan vital, du conatus dont je parlais tout à l'heure, ou de la porte fermée qui n'a pas d'avenir. Et puis, il y a des situations où vous avez des gens qui sont pendant 10-15 ans dans l'obscurité d'une dépendance totale et qui vont faire la grippe de trop. Eh bien, on discute avec les familles, voilà, et comme l'indique la loi, eh bien, on fait une restriction de soins, on l'écrit en concertation, pas en décision personnelle, pas parce que ça nous chante, mais en décision collégiale et avec la famille, et on fait un accompagnement qui est toujours du soin, qui est toujours très actif, mais selon d'autres modalités. Et on n'est pas dans le permis et le défendu. Je pense qu'il y a des situations que les journaux montrent qui sont des situations exceptionnelles et qui, évidemment, imposent d'avoir une réflexion juridique. Ça, je... Mais dans le domaine de la gériatrie, dans le domaine de la fin de la vie, qui n'est pas la gériatrie, qui est le domaine de la fin de la vie, on est plus dans l'accompagnement particulier d'une situation dans un contexte précis et pour lequel, en fait... il y a du possible qui laisse toujours place aux soins et finalement quelque part à la vie en fait.
Il y a une autre question. Bon.
Bon, juste une question. Vous avez déjà partiellement répondu, professeur Beyrouth. Je suis un jeune Jules et j'ai un petit-fils qui s'appelle Kevin. Voilà, pour me situer.
Bon courage.
J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la culture et les différences de culture d'une génération à l'autre. J'en vois trois, donc, puisque j'ai un petit-fils. Et je trouve que ces différences de culture traitent non seulement du rapport à l'âge, mais aussi du rapport à l'environnement et tout ce qu'on appelle l'écologie maintenant, tout ce qui concerne l'avenir, les dettes que nous laissons à nos petits-enfants, etc. Qu'est-ce qui est entrepris et que pouvez-vous entreprendre pour que ces cultures non pas se fondent, mais convergent au moins?
Alors, je rejoins complètement ce qu'a dit Madame le Sénateur, c'est-à-dire que les politiques territoriales sont vraiment les lieux où on peut matérialiser, favoriser ces rencontres. Mais je vais plus loin, dans le sens que l'on donne. La rencontre transculturelle que l'on a entre générations et même dans une famille est la porte ouverte à une rencontre transculturelle avec d'autres cultures. C'est-à-dire que si on n'est pas dans une situation familiale, mais aussi de contexte de vie de quartier, de dispositifs qui favorisent la rencontre entre les générations, eh bien, on n'aide pas la rencontre entre les cultures, qui est quand même l'actualité de notre vivre ensemble. Et que les deux, finalement, vont ensemble. Rencontrer Kevin, qu'en est un Jules, eh bien, finalement, c'est pas plus compliqué que de rencontrer Mohamed. Parce que, on est dans ce jeu-là. Et c'est pour ça que l'intergénérationnel, c'est capital, parce que si on n'arrive pas à s'entendre avec les petits-enfants, la chair de sa chair, c'est qu'on a vraiment un problème. Mais si on y arrive, en fait, c'est la porte ouverte à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est un élément, pour moi, important. J'ai pas complètement répondu à tous les aspects de votre question.
Voilà. Il nous reste encore deux. Merci. Il nous reste cinq minutes pour une ou deux questions. Il y a une dame qui a posé la question là-bas.
Je reprends un peu le problème, là, parce que moi, j'ai 80 ans et j'ai été intéressé par le sujet, Madame Forêt, que je connais un peu, mais que je n'ai pas vue depuis 35 ans. Enfin bref, et puis Monsieur Corva, je dis mais pourquoi je vais venir là à 80 ans mais j'ai quelque chose à dire parce que je suis frappé pour les problèmes de. Je me suis beaucoup occupé de personnes âgées. J'ai été bénévole à Jeanne Garnier une fois en retraite. J'ai fait quand même un certain nombre de choses. Et je me suis rendu compte qu'on ne parlait jamais de... On ne parle plus de la famille. Il ne faut pas embêter nos enfants et nos petits-enfants. J'ai quand même 16 petits-enfants et 4 petits-enfants. Et je suis veuve, donc je suis... Mon épouse n'étant plus là, je suis obligé de temps en temps d'aller m'occuper des oreillons, de la varicelle, etc. Mais J'ai pris une habitude il y a bien longtemps. C'est dans le même. J'invitais tous les ans. J'ai trois belles filles. J'invitais tous les ans chacune au restaurant. Et je continue. Et mes petits enfants. Ben, finalement, j'étais parti en Anjou, tout près de chez vous, monsieur. Ils m'ont demandé finalement. C'est mes petits enfants qui m'ont demandé de revenir à Paris parce que. J'ai beaucoup de livres, alors ça les intéressait un peu. Mais surtout, ils aiment venir déjeuner le mercredi ou passer un week-end, les uns séparés des autres. Ils aiment plus les réunions de groupe. Donc, il faut recréer avec les personnes jalées, il faut remettre, réutiliser la famille. On a tué un peu la famille, finalement. Parce que, a priori, moi je vois mes enfants, vous savez, je les vois un peu, on a de très bons rapports, mais... Ils ont pratiquement tous plus de 50 ans. On a dit beaucoup de choses, mais on n'a plus tellement de choses à se dire. C'est avec les petits-enfants. Et je pense que pour les personnes âgées, c'est vraiment... il faut quand même maintenir, pousser pour les personnes en difficulté. C'est aussi à la famille de s'en occuper d'abord. Parce que toutes les EHPAD ont quand même de gros problèmes... De personnel. J'ai une mère qui avait une démence sénile épouvantable, qui a mis 18 ans à mourir dans une maison médicalisée à Viry-Châtillon. J'ai su ce que c'était d'aller voir une mère qui vous reconnaît pas pendant 15 ans et d'y aller tous les dimanches. Mais il y avait des problèmes de main-d'œuvre extraordinaires. On a donc les EHPAD, enfin toutes les solutions sont bonnes, ce que vous avez dit, madame la sénatrice, mais c'est vrai que j'ai vu ça en Anjou aussi, mais c'est compliqué pour faire des choses. Mais si on ne te rappelle pas que ces personnes âgées ont quand même souvent des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, il faudrait quand même rappeler un petit peu ça. Et je pense que ce serait bien dans l'enceinte du Centre Sèvres, où j'ai commencé à venir en 1950, En 1957, donc je suis un vieux de la maison, mais je pense qu'il faut rappeler que les familles existent.
Merci pour ce témoignage.
Quelle heure est-il ?
Il est 6h, mais il y a une dame qui veut poser une question au fond.
S'il est 6h, c'est toi qui décides, tu es le manager. Non, juste court.
Mais c'est juste une question très courte, si vous voulez bien, parce que nous sommes déjà...
On est libre au Centre Sèvres, quand même. Le médecin est parti, mais je voulais aussi demander à Mme Fourette et à Mme la sénatrice, quid de l'alimentation ? Parce que là, on n'a pas mis assez d'emphase sur l'importance de l'alimentation. Alors, l'hôpital ne donne pas le bon exemple, on va dire, et moi, je m'interroge sur les EHPAD. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller dans une EHPAD privée. Alors, Madame la sénatrice, espoir peut-être. Les EHPAD privées ne sont quasiment pas contrôlées. Ça va si ça dépend du département. Et il se trouve que le dimanche soir, comme par hasard, tous les plateaux ne sont pas servis. Ou il manque le dessert ou le fromage. Et ça, c'est honteux. Et l'État, entre guillemets, ne peut pas sanctionner ça. Et sinon, alors, juste une autre chose. Puisque vous êtes sénatrice... Attends, mais on a quand même 5 minutes. On a le droit sénatrice. Juste, vous parlez beaucoup de votre département. Mais quid de la répartition des richesses pour la Creuse, le Cantal, la Corrèze, la Lozère, qui se désertifient? Alors, quid des vieux, entre guillemets, de ces départements?
Très bien, merci, mais c'est des questions très longues. Donc,
un mot à Mme Fourette qui a été interpellée et un mot à Mme...
Si, on a tout à fait parlé de la nutrition dans le domaine de la prévention. Alors, ce que vous évoquez, effectivement, c'est la nutrition dans les EHPAD, mais ça dépend de ce que l'on consacre à ces repas. Moi, j'étais halluciné de savoir, j'ai plus le chiffre en tête maintenant, que c'était à peu près 2,5 euros par repas. Faire un vrai repas avec 2,5 euros, c'est pas facile.
Merci beaucoup, Madame la Sénatrice, puisque vous interrogez sur les inégalités territoriales.
Juste dire que les EHPAD sont contrôlés par l'Agence régionale de santé et par le Conseil départemental, et quand un département est interpellé par une famille, parce que ce sont souvent les familles qui s'interpellent, systématiquement le département se renseigne, voire contrôle. On a pu avoir des contrôles le matin de bonne heure quand il y a des dysfonctionnements graves d'un établissement.
des mises en place de directions administratives, puisqu'on enlève la direction, l'autorité administrative à la personne qui gère l'établissement, voire fermeture d'établissement. Donc quand il y a des graves dysfonctionnements, il est deux autorités de tutelle que sont l'Agence régionale de santé et le département prennent les décisions qu'il faut prendre. S'il y a un problème de repas, ça peut se corriger, mais croyez bien, il y a des inspections parce que c'est indispensable. Encore une fois, nous avons cette responsabilité du bien-être des personnes qui sont accueillies. Sur les départements qui sont moins chanceux que la Charente-Maritime, il vient d'être décidé à l'échelle nationale, au niveau de l'Assemblée des départements de France, qu'il y allait y avoir mise en place sur la base d'un accord entre tous les départements qui sont membres de cette Assemblée, d'un fonds de péréquation, c'est-à-dire que les départements les plus riches vont verser de l'argent aux départements les plus pauvres. Ça a été un accord qui a été décidé il y a à peu près un mois et pour le coup dont Dominique Bussereau est très satisfait en tant que président de l'ADF pour que les départements les plus riches apportent une contribution aux départements les plus pauvres.
Merci beaucoup.
Merci bien.
Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cet après-midi. Je voudrais en votre nom à tous remercier nos quatre intervenants. L'un d'entre eux a dû partir pour ne pas rater son train. Tous les quatre, je crois, nous ont beaucoup aidés à réfléchir. Si je devais m'aventurer à résumer ce qui n'est pas résumable, je dirais que en écoutant les intervenants, trois idées me sont venues. Bien vieillir, c'est vivre. Gouverner, c'est prévoir. Et vivre ensemble, c'est débattre et partager. Il me semble que cet après-midi, nous avons pris de l'avance sur le grand débat national. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Voilà, grand merci à vous. Et pour poursuivre la réflexion, vous pouvez prendre les programmes qui sortent à la sortie du Centre Sèvres. Il y a des petits bulletins aussi qui vous permettent de laisser votre adresse Internet, puisqu'il y a le haut débit ici, pour pouvoir vous prévenir des activités de la maison. Et puis, vous pouvez participer aussi aux frais de la conférence à votre bonne volonté. Merci.